If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Existe-t-il un entraînement pour devenir un super-héros? Et que se passe-t-il si on le suit? Eh bien, mon invité du jour a la réponse. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand et bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain, plus sportif pour lutter contre la sédentarité. Mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, mais aussi des conseils, des rencontres avec des personnes inspirante. Et je peux vous dire que mon invité du jour, Philippe, est sacrément inspirant. J'ai découvert Philippe au travers d'un de ses défis et vous allez voir qu'il n'en manque pas. Mais le défi par lequel je l'ai découvert est l'entraînement pour devenir super-héros. Alors je voulais lui demander si ça avait marché. Et justement, il va nous raconter exactement ce défi, mais aussi tous les défis dans lesquels il se lance, surtout en cette année si spéciale pour lui. Vous allez voir, Philippe est un coureur expérimenté qui a une magnifique philosophie de sport et de vie et est très inspirante pour moi. Philippe se dit feignant mais a une sainte horreur du canapé et veut surtout devenir un vieillard galopant. Et ça, je peux vous dire que ça m'inspire beaucoup. Il court tous les jours depuis plus de 800 jours, il a participé au tout premier UTMB et à bien d'autres ultras et il a aussi eu la drôle d'idée de courir, et même plusieurs fois, 6 jours et 6 nuits sur tapis roulant. Nous avons parlé du jeu qu'il met dans son quotidien, des habitudes, des routines, de ses challenges, des défis avec ses neveux, de la gestion de la douleur, de la fameuse barrière des 42,195 km qui font basculer dans l'ultra une fois que vous les passez, mais aussi, et ça m'a surpris au départ quand on a commencé à parler de cet épisode, des vertus de l'abandon. Mais avant de vous laisser juger si vous pouvez suivre ou pas l'entraînement de Philippe, je voudrais vous parler d'un document que je viens de créer. C'est mon guide des 9 erreurs qui m'ont empêché de courir mon tout premier marathon. Vous le savez, si vous avez écouté tous les épisodes, la préparation du premier marathon auquel j'étais inscrit ne s'est pas du tout passé comme prévu, à tel point que je n'ai même pas pu faire le marathon. Et ça faisait un bout de temps que j'avais en tête de faire le bilan des 9 erreurs grossières que j'avais faites pendant cette préparation. Alors, j'ai fait une liste avec des explications et des conseils pour les éviter, et j'ai rajouté quelques conseils bonus pour préparer le jour J. Je l'avais en tête depuis longtemps, ce document, mais j'ai pris le temps d'en faire un joli PDF avec des photos, des petites icônes, des couleurs. Vous pouvez le télécharger gratuitement à l'adresse suivante, km42.run/9erreurs, hein, 9 avec le chiffre, erreur avec un S, je vous le redis, km42.run/9erreurs, et bien sûr j'ai mis le lien dans les notes de l'épisode. Il est temps maintenant de rentrer dans le monde de Philippe, accrochez-vous, c'est parti. Bonjour Philippe.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Eh ben écoute, ça va super bien, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui, je sens que ça va être très très sympa, qu'on va passer un bon moment.
Alors comme je te le disais juste avant d'enregistrer, aujourd'hui, juste avant là, j'étais... je le dis hein, très clairement parce que j'ai mal au dos, j'ai mal partout, je suis un peu malade. J'étais sur mon canapé, tu vois, et puis j'ai dit tiens, je vais regarder un petit peu ce qu'il a fait. Et alors t'as une énergie, je me suis dit mais où est-ce que tu trouves autant d'énergie pour faire tout ce que tu fais?
Alors ça c'est une très bonne question et t'as donné le mot clé c'est canapé. Et j'ai une sainte horreur du canapé. Et je pense que quand on reste sur le canapé, c'est synonyme de rester statique et donc de voilà, le mouvement c'est la vie. Hein. D'ailleurs, j'ai vu aussi que t'as un petit acronyme SUM dans lequel le M veut dire mouvement justement. Mmh. Et je pense que c'est la base de tout.
Oui.
Et en fait, bon, déjà ça. Alors je dis pas que je regarde pas Netflix comme tout le monde et que je passe pas énormément de temps à rien faire. En revanche, c'est vrai que bon, je fais effectivement du sport depuis longtemps. Et alors je pense qu'on parlera peut-être un petit peu des défis après. Mais la base de ça, c'est que j'ai un rêve depuis gamin, c'est de faire du sport tous les jours. Et c'est un rêve que j'ai jamais concrétisé parce que je suis quand même globalement un gros feignant et puis un jour un petit défi qui passe par là avec mon neveu, tu te prends au jeu et puis finalement tu trouves que c'est pas si difficile que ça de consacrer allez, 1 heure sur 24 heures chaque jour à faire un petit peu de sport, voire plus si affinité.
Oui, j'allais dire oui, parce que 1 heure, quand t'es dans ton défi de faire 30 km par jour, ça dépasse largement l'heure.
Alors, excuse-moi, j'ai mon téléphone. Je t'ai pas du tout entendu là. J'ai mon
C'est pas grave.
téléphone qui s'est. J'ai mis sur. Ouais.
Je la refais. Oui, alors tu dis une heure, mais bon, quand tu fais 30 km par jour, tous les jours, pendant combien de jours d'ailleurs?
Pendant un mois.
Ouais, pendant un mois.
Donc, ouais, c'était pendant un mois. Alors là, ça, c'est dans le contexte d'un défi. Bon, je suis dans ma 50e année, j'ai 49 ans. Et puis, bon, voilà, on se dit, tiens, les dizaines, on va faire un petit truc un petit peu rigolo. Et comme je suis coureur d'ultra à la base, donc les courses au-delà du marathon, je me suis dit, tiens, c'est l'année où je vais faire le plus de kilomètres que j'ai fait dans toute ma vie. Donc voilà, donc l'idée, c'est d'arriver à faire, allez, 8-10 000 kilomètres cette année. Donc ça va être costaud, mais ayons de grands rêves. Et donc chaque mois j'ai fait un défi dont plusieurs défis sont aussi liés à l'ultra et sur vraiment une augmentation pas du tout dans les normes hein, de ce qui est conseillé habituellement pour augmenter les distances. Donc en janvier j'ai fait 20 km par jour. C'est moyennement bien passé. C'était un petit peu compliqué et c'est vrai que j'ai augmenté. Je suis passé de 300 à 600 comme ça d'un mois à l'autre. Et puis donc en mai, j'ai fait les 30 km par jour et c'est beaucoup mieux passé. Donc après, ce qui est un petit peu compliqué, c'est surtout au niveau de l'organisation, hein, parce que faut un petit peu. J'ai un travail comme tout le monde, j'allais dire. Je suis pas sportif pro, enfin pro de mon monde, hein, comme tu pourrais dire. Mais voilà. Donc ouais, le plus dur, c'est en fait au niveau de l'organisation et c'est vrai que le 30 km, tu les fais pas tous en 2 heures, hein, c'est d'ailleurs ni même en 2 heures et demie. C'est parfois ça peut prendre un petit peu plus de temps, il faut accepter ça, quoi.
Oui, mais c'est dingue parce qu'en fait, donc t'as les petits chronos là sur les tous les jours tu marques. Donc t'en as combien de jours d'affilée là?
Alors là, sur oui, alors ça c'est le Saitama Challenge parce qu'en
Ouais.
fait,
Tout se
comme
mélange.
c'est tout se mélange, oui, parce qu'en fait j'ai besoin de en fait c'est un discours, un dialogue perpétuel avec le cerveau où lui il veut tout le temps s'arrêter, donc faut toujours lui donner un petit peu des biscuits pour que il soit toujours un petit peu intéressé. Et c'est vrai que dès que tu commences à faire des longues distances comme ça, moi j'ai beau dire j'aime bien le tapis de course, j'aime bien la natation aussi avec les petits carreaux qui défilent par terre, etc. T'as beau avoir un esprit de hamster, hein, il y a un moment où c'est chiant, c'est chiant et tu t'emmerdes. Donc ça arrive forcément. Et donc là du coup, oui, j'en suis à 820 jours à peu près. Et ça, c'est le Saitama Challenge. Alors Saitama, je décris un petit peu, je dis un petit peu ce que c'est
Oui,
Saitama.
et je veux que tu le dises parce que, alors, en fait, je t'ai découvert par le biais de cette histoire-là, de cet Saitama Challenge et tout, parce qu'à un moment donné, je me suis intéressé à ces fameuses méthodes d'entraînement là qu'il y a dans les mangas et tout, et qu'on voit plein de défis sur YouTube, et je m'étais dit, tiens, c'est un truc, pourquoi pas? Et puis, je fais des recherches, et je tombe là-dessus, je dis, waouh, alors attends, là, il y a un truc, le gars, il faut surveiller Philippe parce que ça m'intéresse comment il le fait. Alors, je présente vraiment le concept parce que je pense que je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont vu passer, mais qui n'ont pas saisi en fait un petit peu la difficulté du truc.
Ouais. Alors, justement, la difficulté, c'est beaucoup plus accessible que ce qu'on pense, hein, déjà. D'ailleurs, ceux qui ont vu le manga, quand il parle de son entraînement que je vais définir un petit peu après, il a un acolyte qui lui dit, mais en fait, il est nul ton entraînement. Et effectivement, c'est pas un entraînement excessivement différent. Enfin, tous ceux qui font un petit peu de sport, c'est pas excessivement compliqué. Alors donc l'histoire, Saitama, c'est un héros un petit peu iconoclaste, hein, qui est conçu pour être le plus puissant de tous les super-héros. Qui est assez voilà assez désinvolte voilà c'est pas un excité hein, c'est vraiment il est un petit peu lassé que tout soit aussi facile que ça. Et pourquoi c'est tout est aussi facile, c'est bon, un jour il est au chômage tout ça, puis un jour il se dit, oh, ça y est, j'en ai marre, je veux être un super-héros. Ça le prend un petit peu comme ça et il se dit, pour être un super-héros, bah, je vais faire tous les jours 10 km sans pompe, sans abdos, sans squat. Et je vais faire ça pendant 3 ans. Alors du coup, ça, effectivement, il y a plein de gens, comme tu disais, hein, qui se prennent les entraînements des héros de manga et puis qui essaient de les refaire. Et donc effectivement, il y a un challenge Saitama qui est sur 30 jours où on reproduit l'entraînement de Saitama. Alors quand on va voir un petit peu dans la littérature, il y a beaucoup de gens qui partent de zéro et qui se blessent très rapidement ou autre parce qu'ils essaient de faire ça. C'est vrai que moi, je pars avec un passé sportif quand même qui est assez conséquent. Et voilà, donc Donc ça me permet. Alors il y a des approches aussi. On peut le Saitama que je viens de dire, l'entraînement c'est Saitama niveau 10, mais on peut diviser par deux, ça donne Saitama niveau 5. Enfin, il y a des approches plus progressives, on va dire. Et donc moi là-dessus, j'ai vu une vidéo aussi, pareil, hein, d'un Hongkongais qui faisait ça pendant un mois. Et puis je me suis dit tiens, ça peut être sympa. Puis là-dessus, j'ai mon petit neveu qui me dit tiens, ça te branche de faire ça en même temps que moi. Et puis donc je suis allé voir le manga et je me suis dit pourquoi 30 jours? Finalement, lui il fait ça pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, il devient un super-héros. Donc voyons si au bout de 3 ans, on va devenir un super-héros. Donc c'est un petit peu ça. J'ai pas trop d'illusions là-dessus, mais disons c'est un petit peu l'idée de choisir des rêves un petit peu plus grands que soi, puis on verra bien, on sait jamais, hein. On n'est jamais à l'abri d'un coup de bol. Et donc du coup j'essaye ça. C'était en avril 2019 et puis ça passe bien. Donc je l'ai fait strictement pendant 400 jours. Et alors avec aussi des petits challenges, parce que c'est vrai que donc je fêtais les 100 jours par exemple au début en multipliant par 2, puis après 200 jours en multipliant par 3, puis bon, des petites choses comme ça. Et puis au bout de 400 jours, bon, c'est vrai que là il y a un moment, faut pas être débile non plus, hein, je me suis rendu compte que faire 100 pompes, 100 abdos, 100 squats et le même entraînement systématiquement tous les jours en termes de progression, donc j'ai validé que c'était pas trop efficace. Et puis mais après ça, on peut faire les 10 km rapidement, lentement, on peut faire plein de variations à l'intérieur de ça, mais c'est pas super efficace, quoi. Donc du coup, au bout de 400 jours, j'avoue, j'ai arrêté. j'ai fait autrement, donc j'ai fait pas mal de... J'ai continué à m'entraîner, par contre, à faire un entraînement physique tous les jours, au moins 10 minutes, au moins le... Et ça jusqu'à 700 jours à peu près. Et puis là, quand je suis arrivé aux 30 km par jour, là, en mai, c'est vrai que 30 km par jour, ça prend énormément de temps. Et disons que mon cerveau en a profité pour exploiter la faille et me suggérer que si je faisais pas tous les jours l'entraînement physique, c'était pas très grave parce que globalement, j'avais quand même le truc. Donc j'avoue, j'ai cédé. j'ai abandonné le Saitama strict. Mais voilà, en tout cas, ce qui est, je reste sur mon objectif d'enfance, on va dire, de faire du sport tous les jours. Et c'est surtout ça pour moi qui est important, c'est vraiment de faire minimum 10 km par jour. Et puis après, voilà, l'entraînement physique, c'est bien, mais je suis coureur à pied avant tout. Et c'est ça qui me fait kiffer grave, quoi.
Ouais, je mettrai un lien. Alors, je sais pas si on parle de la même vidéo, mais il y a une vidéo, effectivement, où je pense le petit Hongkongais, il a fait 16 millions de vues, la vidéo. Donc, c'est le même gars. Mais lui, il l'a fait sur 100 jours, en fait. Il a une vraie transformation physique. Mais c'est vrai, mais parce que je sais pas à quel niveau il part, je me rappelle pas trop la vidéo, mais j'en ai vu certains qui partaient dès le premier jour 10 km, les 100 et tout, puis qui au bout de 5-6 jours, ils disaient, et qui revenaient en arrière bon. Et qui se fixaient comme objectif d'arriver au jour 30 en ayant cet entraînement-là, en fait. Mais il y en a pour qui, enfin, il y a une efficacité, mais je pense, effectivement, si tu pars de zéro, tout d'un coup, ton corps, tu le choques, quoi.
Ouais, tu le choques, et puis alors. Enfin, tu le choques, oui, j'imagine, hein, si tu pars vraiment de zéro. Après, il y a toujours des approches. Hein, je pense les plus dures des épreuves, hein, notamment en ultra, tout dépend comment tu l'abordes. Si tu l'abordes violemment en te disant, moi, les 10 km, je les fais tous à fond, il risque d'y avoir un problème et assez rapidement. On fait pas de dessin. Donc oui, si les 10 km, ça se fait à pied, ça se fait en marchant. Hein, en marchant, ça prend 2 heures et c'est pas compliqué. C'est pareil, les pompes, on peut fractionner sur toute la journée. Moi, au début, j'étais incapable, d'ailleurs, je suis toujours incapable de faire 100 pompes d'un coup, mais je fractionnais, j'alternais. Même au début, je faisais les 100 pompes toute la journée, c'est-à-dire que je faisais de temps en temps 10 pompes, et puis voilà. Donc, c'était. Donc, on peut faire ça sans se faire mal, ça, c'est pas un souci. Sur la question de la transformation physique, toujours la même chose. Quand tu as 20 ans et que tu es hyper. Enfin voilà, ton corps est en pleine évolution, ou quand tu es ado, c'est assez facile d'avoir. Comment dire, d'être très réactif à l'effort et d'avoir un corps qui change très vite. Quand on a 40, 45, 50, ça va, la transformation physique, ça va beaucoup moins vite et c'est beaucoup moins évident. Donc si tu ne mets pas de la nutrition derrière, si tu mets pas. Même si tu varies pas le. Enfin, on sait très bien les exercices d'endurance, hein, ça ne fait pas des gros muscles par exemple. Donc c'est vrai que le 10 km, c'est pas ça qui va te donner des grosses cuisses ou qui va te dessiner. Et puis même sans pompe, hein, au bout d'un moment, sans pompe, sans abdos, sans squat, ça devient un exercice d'endurance plus que de force réellement, quoi. Donc les transformations physiques, C'est vrai qu'on peut le faire, mais moi, j'y crois pas trop aux transformations comme ça, juste avec le Saitama pur, quoi.
Ouais, en fait, c'est vrai qu'il y a un petit changement qui est possible. Moi, à une époque, il va se reconnaître, Nico, il m'avait envoyé un challenge pour mes 42 ans ou 43 ans. Il m'a dit qu'il n'y a qu'à faire 43 000 pompes dans l'année. Je dis, bah écoute, je m'y mets, hein, on va voir ce que ça fait. J'ai fait un calcul, il fallait que je fasse 167 pompes par jour en moyenne. Et en partant de zéro, enfin en partant de très peu, l'histoire, faire 20 pompes et tout, déjà c'était compliqué, etc. Je me suis rendu compte quand même. Et j'ai pris, hein, il y a des endroits du corps qui prennent, etc. Mais après, comme tu le dis, au bout d'un moment, finalement, on est dans la répétition. Et il faut passer à autre chose pour progresser, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors après, l'intérêt quand même de la répétition du même geste, il n'est pas nul. C'est-à-dire que je me suis quand même aperçu qu'en arrêtant, donc après j'ai fait des choses même un petit peu plus dures, j'ai fait du freeletics et des choses comme ça, mais au bout d'un moment, en fait, en arrêtant, on se rend compte quand même qu'on repère. C'est-à-dire que là, j'ai du mal à faire 20 pompes, alors que pendant 700 jours, 50, ça passait relativement bien et facilement. Donc on repère. Mais ça, quand on est dans la répétition, on ne se rend pas compte en fait, qu'on a mis son corps dans une espèce de routine où ça nous paraît facile et on n'apprécie plus en fait, ce truc qui est facile. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Et moi, ça, c'est j'ai pas de regrets parce que ça sert à rien, mais quelque part je me dis je vais reprendre sûrement la routine Saitama comme ça à un moment, parce que c'est finalement 100 pompes, 100 abdos, 100 squats, ça prend 10-15 minutes maxi dans la journée, c'est pas énorme non plus, donc ça se case.
Ouais.
Et ça donne une forme de base qui est quand même intéressante, quoi.
Oui, mais ce qui est le plus dur, c'est de reprendre. Parce que moi, je me suis rendu compte quand j'ai arrêté mon challenge de pompes. Parce que, en fait, j'ai pas fait mes 43 000 pompes dans l'année, mais j'en ai fait un bon paquet quand même. Mais je me suis pas arrêté au bout d'un an. J'ai continué jusqu'au jour où je me suis fait opérer, où là, je dis, je pouvais plus le faire, quoi. J'étais bloqué. Et ben, de reprendre après, physiquement, on perd. Mais tu disais, le cerveau, en fait, il trouve une parade. Il dit, bah écoute, je me suis arrêté une fois, pourquoi je m'arrêterai pas, pourquoi je reprendrai, quoi.
Exactement. Mais ça c'est vraiment le. Je pense que si je devais être chercheur en course à pied de mon monde, hein, ce serait ça que. Enfin, c'est vraiment. Je vais pas dire que c'est l'œuvre de toute une vie, mais le dialogue avec mon propre cerveau, c'est assez énorme, parce que c'est vrai que lui, son but, c'est de te mettre dans les circonstances les plus cool possibles. C'est-à-dire que dès que tu commences à choquer un petit peu ton corps, lui, c'est « Oh là là !» Si tu me donnes rien en échange, ça va mal se passer. Et il trouve toujours la faille, en fait. Il trouve toujours ton point faible mental, physique, etc. Et ça, les coureurs d'ultra connaissent bien ça. Hein. C'est-à-dire que tu pars sur... Enfin, pas que les coureurs d'ultra, d'ailleurs, mais c'est vrai que les distances sont suffisamment longues pour que le travail de sap se fasse avec patience et persévérance et même un certain génie aussi du cerveau à aller chercher justement les failles. Et c'est assez marrant. Moi, j'ai souvent observé au cours d'ultra le cerveau, tu vois, aller te chercher une petite douleur, tiens, et puis il va te dire, tiens, est-ce que c'est pas ça qui va t'arrêter? Et puis au bout d'un moment, il trouve le truc, tu vois, ça va être le genou, par exemple. Le genou qui a été, sur lequel tu as été blessé sur une course précédente, et puis à un moment, tiens, c'est ça. Et tu vois, t'es fatigué, ça fait 20 heures que tu cours, et tout ça, et il va comprendre que c'est ça. Et là, il va devenir génial pour te faire abandonner. Et tu sais que on sait tous, hein, tous les coureurs savent aussi que quand tu commences à focaliser sur une douleur, voilà, ça fait de plus en plus mal. Et à contrario, on a tous vécu le footing avec des potes où on discute, et puis comme par hasard, on a plus mal nulle part par rapport à quand on court seul. Donc c'est des trucs qui sont, ce dialogue avec le cerveau, il peut être énorme dans les deux sens. Hein, quand on l'amène dans un truc un petit peu fun où il va se marrer, moi j'aime bien dire que c'est un sale gosse, en fait. C'est un sale gosse, c'est-à-dire qu'il peut autant être très, très enthousiaste sur n'importe quoi. Et moi, quand je lui dis, tiens, on va faire un 6 jours sur tapis, il dit, ouais, génial, il n'y a personne qui fait ça, en fait, personne qui a l'idée assez débile de faire ça. Et voilà, on va faire un truc complètement, complètement débile. Et ça, il aime bien, mon cerveau, il aime bien. Et puis en revanche, hier, 10 km, voilà, 10 km du jour, il y a des jours comme ça où j'avais pas envie de le faire, parce qu'il fallait que je fasse une séance lente, je savais que ça allait me prendre une heure, et voilà, donc là, faut, faut lui dire, bah là, on y va. On va pas arrêter cette si belle série en route.
Et oui, parce que bon, c'est vrai qu'on enregistre, là, on est au jour 825. Donc, j'ai envie de dire, par rapport même à ton challenge de 1000 au départ, finalement, il ne te reste pas grand-chose à faire sur les 3 ans quand tu avais commencé si regarder ce challenge.
Ouais, bah après, il y a les étapes. Hein. Déjà, au départ, même une semaine, hein, je disais, oh, si tu passes une semaine, ce sera bien. Puis après, tu dis, tiens, ça passe. Puis après, bon, allez, on va essayer de voir comment ça passe sur 2 semaines, puis 30 jours. Et puis après, c'est les 50, les 100. Puis après, on compte en centaines. Maintenant, c'est plutôt en centaines. Et voilà. Et donc, oui, effectivement, c'est 1096 jours, les 3 ans. Donc, il reste 250 jours à peu près, quoi. Et c'est vrai que j'imagine pas ne pas terminer. Là, je me suis même imaginé toutes les situations possibles. Je me casse une jambe, je vais à l'hôpital, etc. Non, mais je marche dans les couloirs de l'hôpital, c'est pas un problème. J'ai même fait une fois que c'était en mars dernier, confinement. Bon, là, tu te retrouves chez toi, qu'est-ce que tu fais? Là, j'étais dans un appart parisien de 60 mètres carrés, donc compliqué. Là, je me suis dit, voilà, 10 000 pas, c'est si je marche, c'est 15 000, enfin 10 000, 10 km, je veux dire. Si je marche, c'est à peu près 15 000 pas. Donc j'ai trottiné 15 000 pas dans un appart de 60 mètres carrés. Donc sur place, hein, l'intégralité quasiment. Et ouais, c'était assez spécial. C'est le seul jour où j'ai pas couru 10 km. Mais après, voilà, là, le cerveau, il est forcément d'accord parce que tu fais un truc débile. Et ça, c'est très ludique et c'est très rigolo, tu vois, après d'aller raconter que t'as fait ça. Voilà, c'est toujours rigolo d'avoir quelqu'un qui fait les grands yeux quand tu fais un truc. Ça, moi, c'est j'aime bien.
Ouais, non, mais en plus, c'est marrant parce que sur ton... pratiquement chaque photo ou presque que tu publies sur Instagram, on regarde, on ouvre les grands yeux, on dit mais qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là, mais c'est quoi cette histoire? Tout à l'heure, je regardais le défi qui t'a été lancé où tu l'as fait en courant à l'envers. Toi, quelqu'un qui te lance un défi sur un 100 mètres d'aller plus vite qu'elle en marche arrière. Mais je me dis, mais enfin voilà, ça fait partie encore des trucs où il y a vraiment du jeu dans plein de choses, quoi.
Ah oui, mais c'est moi, je suis très très joueur et c'est c'est la base de tout en fait. C'est la base de tout et vraiment, encore une fois, c'est le dialogue avec mon cerveau. C'est-à-dire que je sais que je peux compenser. Si je lui dis tu vas te lever du canapé, et comme hier, hein, hier c'était compliqué parce que oui, tu te lèves, j'ai pas envie. Puis donc j'y suis allé et je me suis mis dans un autre monde. En plus, comme je cours sur la route, je peux pas forcément prendre de la musique parce que j'ai pas envie de me prendre un camion ou un tracteur là. Donc c'est non, il y a des. Alors c'est vraiment une minorité de sorties. Hein. Il y a des jours comme ça où t'as juste pas envie et puis il faut y aller et puis c'est pour pas rompre la série. Mais sinon, à chaque fois, même sur les séries, même sur les sorties comme ça, en fait. Par exemple, souvent, je vais courir, je me dis là, il faut que je fasse une sortie lente parce qu'on ne peut pas faire que des sorties rapides, hein, même si c'est ça qui est amusant. Et donc, par exemple, je vais faire une sortie lente et puis je vais partir un petit peu en marchant. Donc, je vais faire le premier kilomètre en 10 minutes et puis le deuxième en 9 minutes 30 et puis après 9 minutes, etc. Et rien que ça, on installe un petit jeu, c'est pas dur, tu termines en 6:30, tu vois, à 10 km/h à peu près. Tu pars à 5:6 et puis... c'est facile à faire et t'as un petit truc qui un micro défi. Bon, le défi c'est de pas aller trop vite, mais voilà. Ou alors des sorties où je me dis il faut pas que je transpire. On peut être très imaginatif en fait.
Hein. Attends, une sortie, je dois pas transpirer. Comment tu fais ça, toi?
En dessous, en gros, de 100-110 pulsations, je transpire pas trop. Bon, après, il faut pas qu'il fasse trop chaud non plus, mais bah, c'est sûr que si tu sors dans... Bon, en ce moment, la canicule, on n'a pas trop de problèmes. Hein. Je sais pas par chez toi, mais j'ai pas trop de problèmes de canicule, donc c'est pas difficile. Mais ouais, non, ça se peut. Ou sinon, tu marches, hein, de toute façon. Pour moi, la marche fait vraiment partie de la course à pied aussi. Hein. Ça, c'est un truc aussi... beaucoup de coureurs, et moi le premier, quand j'ai commencé à courir, hein, pendant des années, si je marchais, j'avais raté la sortie, quoi. Et non, au contraire, ça c'est le nombre de... C'est des idées reçues, des croyances un petit peu limitantes que t'as. Ce qui compte, c'est d'aller loin, au maximum en courant, c'est très bien. Mais c'est vrai que, par exemple, les 30 km par jour, j'ai beaucoup alterné course-marche. Sur la plupart des séances, donc je faisais 900-950 mètres de course, 50 à 100 mètres de marche, et c'est vrai que ça change tout. Avec ça, tu vas au bout du monde, vraiment.
Oui, c'est vrai, mais j'ai fait des épisodes sur les vertus de la marge, j'ai fait des vidéos, j'ai eu beaucoup de réactions dessous, et j'ai fait des, même avec des invités qui disaient, bah oui, mais de toute façon, on s'entraîne à marcher, notamment sur, pour, alors il y a ceux qui font l'ultra, mais ceux aussi qui courent dans le désert, il y a tout un tas de raisons, de, parce que le débutant dans la tête lui dit, faut que je cours, et puis en fait, tu te rends compte qu'en progressant, t'en as plein de gens qui courent beaucoup, qui en fait, ils passent beaucoup de temps aussi à marcher.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ce que tu dis, en fait, tu t'as parlé quasiment dans le même temps de débutants et de coureurs d'ultra. Et en fait, c'est super marrant parce que souvent, c'est un petit peu comme en judo, où, quand t'es très fort, quand t'atteins le 10e ou 12e dan, tu récupères une ceinture blanche. Et en fait, c'est vraiment un cycle et tu redeviens débutant. Et en fait, moi, je me rends compte qu'il y a énormément de pratiques d'entraînement à l'ultra qui sont complètement adaptées pour le débutant, en fait. Où tu te dis, mais ouais, il faut marcher. Il faut marcher parce que déjà, d'une part, tu vas tenir des séances plus longues. En plus, les débutants, quand ils marchent, ils font quand même marcher le cardio aussi. Et puis surtout, tu vas pas te dégoûter, quoi. C'est-à-dire que se forcer à courir dès le départ, c'est le meilleur moyen de se dégoûter de la course à pied à vitesse supersonique, quoi. Donc en fait, quand on a juste compris ça, et c'est là où nous aussi, les coureurs qui avons un petit peu de bouteille, on est vachement important parce qu'on a toujours un débutant qui nous demande comment commencer. Et si dans le discours dès le départ on lui dit mais vas-y n'hésite pas à marcher, c'est pas grave, tu vas pas mourir et tu vas quand même devenir un coureur bon ou pas bon, mais tu vas te faire plaisir en tout cas, et sûrement avec beaucoup plus de pourcentage de chance que si t'essaies de tout courir et si t'essaies de te dire il faut que j'arrive à 10 km/h ou 12 km/h ou tout ça à tout prix, et c'est le meilleur moyen pour se dégoûter en fait rapidement de la course à pied, quoi.
Oui, moi dans les challenges, il y a des trucs quand même qui m'ont fait marrer. Le truc, parce que on parle souvent de ceux qui sont dans des pays, dans des régions plates où ils n'ont pas de côte. Toi, tu as une solution, c'est le coup des éoliennes, là, le challenge. Où vous montez les escaliers des éoliennes, moi ça m'a trop fait marrer quand même.
Ah, ça c'était drôle. Ouais, ça c'est toujours le même neveu, hein. À chaque fois que je le croise, lui il balance un défi pourri. Là, il nous a même trouvé un 4000 km à faire à 4 sur les challenges Conqueror. Là, je sais pas si tu as vu passer ça, mais. C'est en gros, il y a un challenge de 4000 km. Il a pris le plus dur, il a appelé trois potes, dont son cher oncle. Et puis, voilà, on va faire 4000 km à nous quatre. Donc voilà, donc lui, il a toujours des idées un petit peu bizarres. Et donc, lui plus moi, ça fait, c'est combinatoire. C'est pas très. Je sais pas si c'est sain, mais en tout cas, on s'amuse bien. Et donc là, lui, donc on arrive, on est avec son frère et ma fille. Et puis on passe devant l'éolienne, et il dit tiens, on va faire chacun le nombre de montées qui correspond à notre âge. Donc bien sûr, je suis content, c'est moi qui vais en faire le plus, ça me va très bien. Et je me dis en même temps, je dois me faire avoir quelque part, mais je réfléchis pas trop. Et puis donc c'était assez marrant, donc sur la vidéo, en fait, on nous voit monter, et il y a le côté un petit peu. C'est marrant, moi ça m'a fait un petit peu remonter dans le temps, c'est-à-dire que. Lui, comment dire, ma sœur l'a eu quand j'avais 19 ans. Donc au bout de 19 montées, donc je me dis tiens, j'ai 19 ans et il y a lui qui naît et il commence à monter. Et ensuite il y a le deuxième qui arrive, j'avais 23 ans. Et puis après il y a ma fille qui arrive et j'avais 32 ans. Enfin c'est assez bizarre que sur un défi un petit peu comme ça, effectivement où on a 15 marches à monter. Hein, enfin, émotionnellement, c'était super fort en fait. Ça durait 2 minutes. Hein.
C'est drôle, hein, comme quoi parce que c'est vrai qu'on cherche les défis, puis souvent on regarde les grands défis, on voit les grands trucs. Alors attention, hein, parce qu'on va en parler aussi. Des grands défis, t'en as un paquet. Mais des petits défis comme ça du quotidien, des choses comme ça, ça pimente les sorties. C'est parce que c'est vrai qu'on dit ouais, 800 jours à courir comme ça tous les jours, 10 km par jour. Moi, l'an dernier, j'ai couru 30 jours d'affilée. Bon, on trouve des nouveaux chemins, mais au bout d'un moment, on tourne un petit peu en rond, quoi.
Ah oui, c'est plus qu'en rond, en fait. Il y a un parcours à côté de chez moi que j'ai fait 130 fois. 130 fois. Et c'est un aller-retour. Et c'est vrai que passer devant la Syrie tout le temps, et de passer devant la même maison, et devant le même chien qui arrête pas de te gueuler dessus, et qui a vraiment un cri très strident aussi. Parce que lui, quand il se met à hurler quand je passe, c'est vraiment très désagréable. Et voilà. Et donc, oui, effectivement, c'est. Mais le truc, c'est vraiment te dire, il y a toujours l'occasion de faire un défi, toujours, toujours, toujours. Et en fait, c'est comme de la musique, en fait. T'as un ensemble de notes et tu peux jouer une partition, une infinité de partitions, en fait. Et la course à pied, c'est pareil. T'es jamais pareil tous les jours. Il y a toujours moyen d'intérioriser, toujours, enfin, les nuages, c'est toujours changeant. Enfin, c'est intérieur, extérieur. Enfin, il se passe énormément de choses, en fait. Et quand on est un petit peu réceptif à ça, et on apprend aussi à l'être, hein, parce que c'est vrai que arrêter de se poser la question de est-ce que je vais courir tous les jours, justement, ça te permet d'être beaucoup plus réceptif à ça, puisque tu n'as plus le choix, en fait. Tu te laisses plus. Le temps que tu te poses enfin, le temps que tu passes habituellement à te demander est-ce que je vais sortir ou pas, là, ça, cette question, c'est réglé, tu sors. Donc, tu sors. Et donc après, bah, tu te dis comment je vais rendre ça agréable finalement, puisque de toute façon, je dois le faire. Enfin, après, il y a plein, plein de ramifications à ça, parce que même au quotidien, c'est beaucoup plus facile ensuite de prendre des routines et tout ça. Mais ouais, le côté ludique, le côté. Enfin, moi, c'est aussi ce que j'essaie de transmettre, c'est le côté dès que tu ouvres la porte de chez toi, en fait, ça y est, t'es dans l'aventure. Et oui, tu peux aller faire aller dans les plus beaux déserts du monde, tu peux aller faire le marathon de New York, tu peux aller faire. Enfin, il y a des gens qui font tous les marathons, c'est génial, etc. Mais là, en plus, les gens ont compris un truc, c'est que il peut arriver un petit virus comme ça, qui peut être très embêtant et qui peut faire que ben tu peux plus bouger, tu es obligé de rester chez toi, dans ton petit périmètre. Et c'est vrai que. En mars dernier, par exemple, où on avait 1 km pour courir, et même moi là, si ça n'avait aucun sens, j'ai pas de gendarme chez moi, j'ai pas vu un gendarme en 18 mois, quoi. Et ben, tu respectes quand même les choses. Alors là, après, ça a été un petit peu plus souple, on va dire, même dans la tête des gens, mais c'est vrai que le premier confinement, je pense qu'il a été bien, bien suivi et que les gens respectaient pas mal le kilomètre. Et c'est vrai que là, les allers-retours sur la petite petit faux plat là, qui a au-dessus, je le connais très très bien. Je le connais très très bien.
Mais tu sais, c'est vrai ce truc-là, parce que moi, sur le reconfinement, par exemple, il y a un jour, je suis sorti de ma zone dans les heures. C'était à la fois la zone, sorti de la zone et pas les bonnes heures du tout. J'en avais marre, je dis, je vais me prendre l'air. Et ben, je me suis senti totalement hors la loi, alors que c'est un endroit où je passe à peu près 3 fois par semaine en courant, tu vois, sur le truc comme ça. Et le jour-là, je me suis dit, il y a un truc qui a changé. Et il y a jamais personne de toute façon, donc c'est pas le fait qu'il y ait personne ou quoi que ce soit, c'est juste le fait que d'un coup il y avait le sentiment que c'était autre chose, c'était alors je peux pas appeler ça une grande aventure, quoique l'invité de la semaine prochaine c'est quelqu'un qui est adepte de la micro-aventure. Alors j'ai déjà eu dans le podcast pour une nutrition, c'est Lilian, et qui m'avait raconté ses micro-aventures, et qui par exemple partir le soir du boulot et rentrer le lendemain au boulot en ayant dormi dehors.
Mais très bien. Bah, je vais écouter ton podcast. Très intéressant. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, t'as l'impression tout à coup, avec ton périmètre de 1 km, tu vois, on est en fait des super faciles à conditionner, hein, parce que le conditionnement d'un kilomètre, il est venu très vite. Mais moi, je dépassais de 2 mètres et j'avais l'impression que j'allais avoir le GIGN qui allait atterrir, quoi. Et du coup, alors ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais notre cerveau, il est en excitation totale quand on passe cette barrière virtuelle. Et pourquoi on ne peut pas la recréer tous les jours, en fait? Et c'est vrai que c'est aussi ça qui a permis, je pense, à plein de gens de se dire, mais oui, déjà, j'ai de la chance de pouvoir sortir de chez moi et de pouvoir aller un petit peu loin. Mais finalement, on peut vivre des trucs super. Enfin, il y a plein de gens qui ont fait des alors, peut-être pas des. Aussi, même des semi-marathons chez eux, dans leur jardin, et c'est devenu quelque chose de presque banal, quoi. Et où là, effectivement, dès qu'on voyait quelqu'un faire ça avant, on était un peu taré. Et là, c'est devenu presque la norme, quoi. Je connais même j'ai même des ados dans mon entourage qui sont au CNED, qui m'ont dit, c'est qui m'ont fait cette réflexion absolument géniale de ah ben, je me sens normal maintenant. Et c'est vrai que quand tu es au CNED, tu es complètement quasiment déscolarisé, enfin, tu vois personne, tu as des amis peut-être dans le cadre de tes activités, mais tu n'es pas dans une classe normale et tout ça. Et c'est vrai que ça a rebattu plein de cartes, je trouve. Et alors voilà, après, c'est vrai que le background est assez dramatique, on va dire, pour beaucoup de gens. Et voilà, mais quelque part, si même de choses comme ça assez graves, on peut tirer quelque chose de positif. De positif, je pense que c'est c'est aussi une leçon de vie pour pas mal de gens, quoi. C'est-à-dire de se dire, ben, finalement, quand il nous arrive quelque chose de négatif, il y a toujours une dynamique positive qui peut s'installer derrière, en fait.
Oui, mais c'est vrai, et c'est drôle, hein, tous ces trucs-là, parce que, par exemple, dans les invités, j'ai des gens qui ont couru sur tapis, qui ont voulu faire un marathon sur tapis, d'autres qui ont couru dans leur jardin, tu vois, tu le disais, etc. Mmh. Chacun s'inventait ses petites... Pour le coup, des micro-aventures confinées, la plupart, ou alors des micro-aventures dans ce fameux kilomètre qu'on avait là, où on a pris des nouveaux trucs, où même d'ailleurs, on pouvait découvrir les vertus que finalement, dans un kilomètre, on pouvait faire beaucoup plus de choses qu'il y paraît, quoi.
Ah oui, c'est. Bah, oui, moi, à un moment, je me suis dit, tiens, les 10 kilomètres, si je vais juste à la limite du kilomètre, et que je fais toutes les routes, donc je fais demi-tour. Et puis j'essaie toutes les routes, en fait, et je suis et bon, j'ai pas énormément de routes autour de chez moi, mais je suis pas arrivé à tout faire, en fait, et c'est assez et enfin pour tenir dans 10 km. Et voilà, il y a juste ça, et j'ai découvert des chemins juste à côté de chez moi, quoi. Et puis après voilà, c'est vraiment je pense qu'on est dans, enfin, sans essayer de faire dans les grandes généralités philosophiques à deux balles, mais on est très habitué à beaucoup de variété, beaucoup de diversité. On est excessivement sollicité, on veut des choses rapides et des gains rapides aussi. Et là, tout à coup, on est obligé d'aller lentement, d'aller entre guillemets chiant. Hein, je parlais de ça tout à l'heure, mais en fait. Le chiant, on peut vite le transformer en autre chose. Et c'est vrai que... moi, en fait, je disais chiant tout à l'heure un petit peu, parce que c'est un mot, c'est un petit peu le mot qu'on attend de quelqu'un comme moi. On se dit toujours, il y a bien un moment où il s'emmerde. Oui, il y a des moments où je m'emmerde, mais en fait, on tourne ça en autre chose. Et c'est vrai que j'ai essayé de faire de la méditation, par exemple. Alors, j'étais très, très bon élève. Hein. J'en ai fait quasiment pendant un an. Et franchement, j'ai entre 10 et 20 minutes par jour, et j'ai pas réussi à voir ce que ça m'apportait. Et en fait, je me suis dit, il y a deux moments où je fais de la méditation, en fait, c'est bon, évidemment courant, mais même en faisant des siestes, en fait. Faire une sieste de 10 minutes, alors n'importe qui fait de la méditation va dire, non, mais déjà en courant, non, c'est pas ça, il faut te mettre en tailleur ou je sais pas quoi avec les doigts comme ça. Moi, en courant, j'ai vraiment la même sensation, et pour le coup, j'ai pu le vérifier. Et puis quand je m'endors, quand je fais une sieste, c'est pareil, c'est-à-dire que je me mets en état de décontraction, et j'ai demandé justement à des gens, est-ce qu'on peut faire de la méditation allongée? Ah non, non, bah si en fait, c'est vachement bien même, et puis tu t'endors vachement bien en plus, c'est super pratique pour s'endormir rapidement. Mais voilà, si l'idée c'est d'arriver dans un état de décontraction, et puis justement de calmer un petit peu le flux cérébral, le flux de pensée, tout ça, assis, couché, debout, en courant, peu importe, ça fonctionne, et puis à la limite, c'est comme tout, faites ce qui vous plaît, quoi.
Ouais, mais sur la méditation, en fait, il y a une image, effectivement, de la position de lotus, faut avoir la position, truc, etc. Mais quand tu regardes, il y en a plein qui font de la méditation en marchant, même sur les applications, hein, ils donnent des cours de méditation en marchant. Et Petit Mambou, d'ailleurs, qui est le numéro un des applications de méditation, ils ont des partenaires, c'est des coureurs qui utilisent la course, la méditation en courant pour courir l'ultra. Donc, c'est bien qu'à un moment donné, parce que si tu pars courir, et puis il y en a aussi qui sont sur les courses à étapes, etc., donc, où c'est tous les jours, 10 heures par jour pendant 10 ou 15 jours, il y a à un moment donné, forcément, ton cerveau, enfin, il faut que tu l'occupes à quelque chose d'autre que juste regarder tes pieds, quoi.
Ouais. Oh bah alors là-dessus, si on commence à aborder ce thème-là, sur tout ce à quoi on pense quand on fait de l'ultra, ça va être très très long, il va falloir plus de 2 heures. Mais c'est vrai que ouais, alors souvent on me dit, ouais, mais tu dois t'emmerder pendant les ultras. Alors ça, c'est vraiment la question qui revient en premier. Et en fait, bon, alors après, ça dépend vraiment de chacun. On a tous, moi, je sais que je suis très connecté, j'aime bien les montres. Enfin, je pars toujours avec un bardage, j'ai un Footpod Stride, j'ai une montre, enfin bon, je vais pas citer les marques, mais j'ai une montre connectée, etc. J'ai le cardio et tout ça. Et par exemple, je passe énormément de temps à regarder mes moyennes, à faire des calculs dans tous les sens. Et ça, déjà, ça prend énormément de temps. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est sensation interne. Ça, c'est passionnant parce que quand tu fais de l'ultra, tu as des distances qui sont pas entraînables. C'est-à-dire que tu fais pas souvent 6 heures d'entraînement, 8 heures, 10 heures. Et puis plus tu avances, en fait, et plus tu vas dans l'inconnu. Et t'as beau en avoir fait beaucoup, il y a toujours un moment où, où c'est aussi ta forme, ton état d'esprit du moment qui interviennent, et t'es toujours dans une, t'as toujours une part plus ou moins importante d'inconnu. Donc là, effectivement, c'était vraiment il se passe énormément de choses, quoi. T'es vraiment en inspection, en recherche de toi-même, et comment tu réagis un petit peu à tout ça, et quelle solution tu vas trouver cette fois-là, quoi. Parce que c'est jamais les mêmes. Et voilà, il y a beaucoup de créativité en fait, hein, quand on commence à ressentir un petit peu ses douleurs. Moi, j'ai beaucoup abandonné. D'ailleurs, quand j'ai commencé l'ultra avec, avec cette notion d'abandonner, peut-être qu'on en reparlera, mais c'est vrai que pour moi, l'abandon, c'est vraiment un des piliers de ma pratique.
Mais on va en parler, parce que c'est vrai que, en plus, c'est, pour donner les coulisses pour ceux qui ne savent pas, c'est, je mets toujours un petit calendrier, puis je mets un petit truc de commentaire. Et en disant de quoi on peut parler. Et toi, alors il y a un truc, le premier truc que tu mets, c'est, je dis, les vertus de l'abandon. Alors attends, les vertus de l'abandon, moi je l'invite parce qu'il me fait des défis dans tous les sens, qu'il va faire 140 bandes tout seul, entre la Sainte et Lyon, etc. Et lui, il me parle d'abandon. Alors, justement, c'est ce qui, ça m'intéresse, tu vois, c'est de, comment, c'est quoi l'abandon, les vertus de l'abandon pour toi?
Alors, il y a beaucoup de choses. À la base, c'est venu de... De deux choses. Un truc qui est un petit peu le délire d'ado, et puis qui est un petit peu l'histoire des samouraïs, où les samouraïs, en fait, apprennent à maîtriser la mort avant de comment dire, de commencer leur entraînement, etc. C'est le premier truc qu'ils doivent maîtriser, et c'est un petit peu la peur ultime. Et voilà, après ça, ils ont peur de rien et ils peuvent y aller. En gros, c'est l'idée. Donc c'est un petit peu extrême, mais je me suis dit, c'est l'abandon, c'est un petit peu ça pour le coureur. C'est-à-dire que c'est vraiment le truc que les gens aiment pas, et c'est un mot un petit peu tabou. Moi, j'ai vu des athlètes de niveau en pleurs, j'ai abandonné, c'est pas dans mes valeurs, etc. Et je me dis, attends, calmons-nous, t'as juste arrêté une course. Et l'autre truc, c'est quand j'ai commencé l'ultra, je me suis renseigné, j'ai lu pas mal de comptes rendus de course, tout ça. Et notamment un qui m'a pas traumatisé, mais presque. C'était un gars dont j'ai oublié le nom, qui voulait faire la Transpyrénéenne, donc traverser en solo les Pyrénées, donc c'est à peu près 500 km, c'est un truc assez en deux semaines. Il s'était beaucoup entraîné, et il a une gastro, donc voilà, ça se passe pas bien, et au bout de deux jours il essaye de continuer tout ça, puis au bout de deux trois jours il abandonne. Et en fait, le compte rendu, c'était ces deux semaines de déprime après ça. Et c'était tellement violent, je me suis dit, mais jamais je veux vivre ça. Donc le premier truc que tu vas apprendre quand tu vas faire de l'ultra, c'est abandonner. Donc j'ai fait plein d'ultra. Mon seul défi, tu vas me dire, je vais tricher un petit peu, mais c'était de dire, à chaque fois que je fais un ultra, je dépasse le marathon, à minima. Donc c'est-à-dire que si je fais un 24 heures et que ça se passe mal, je vais quand même jusqu'au marathon. Et puis voilà, donc... Bon, rendre cette distance-là, parce que c'est le passage du marathon qui fait l'ultra, donc au moins j'aurais fait mon petit ultra, et puis après, peu importe le temps, je fais mon marathon. Et en fait, j'ai vécu plein de types d'abandons différents. L'abandon sur blessure, etc. Puis au bout d'un moment, tu commences à créer un petit peu des modèles. Tu te dis, tiens, pourquoi j'abandonne? J'abandonne parce que mon cerveau, à un moment, comme on disait tout à l'heure, il va chercher, il a une espèce de génie à aller chercher la faille et tout ça, donc tu comprends un petit peu mieux comment il fonctionne. Mais si tu n'abandonnes pas, tu comprends pas, si tu vas pas vraiment au bout du truc. Et aussi, ça m'a aussi appris autre chose, c'est d'aller chercher des courses qui étaient inaccessibles pour moi. C'est-à-dire que le premier ultra trail du Mont Blanc, par exemple, j'avais fait une course de montagne dans ma vie, je l'ai fait, c'était la première édition, il y a eu 10% d'arrivée. Déjà, tout le monde partait en short, t-shirt, enfin c'était un truc de malade, et puis il a vraiment plu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, je suis parti sans bâton, par exemple. Je suis parti sans bâton, et tout le long de la course, je me rappelle très bien me demander, mais quand est-ce qu'il y a de la route? Parce que en fait, je suis pas du tout montagnard, et je comprenais pas pourquoi il y avait pas plus de bitume, bon bitume, tu vois, là où tu peux courir. Et les chemins, au bout d'un moment, j'en avais vraiment marre. Et quand j'arrive, il y a une portion au lac Combal, à peu près à 60 km, où on a 5 km de plats, de machin, mais là j'étais, je sais pas si tu te rappelles cette pub Royal Canin avec le chien qui court, etc. Là. Ouais. J'étais le chien dans Royal Canin, quoi, c'est-à-dire le poil luisant, l'œil vif, et là je me disais, ah, c'est trop bien, je peux courir à 10 km/h. Et donc le premier UTMB, c'était que ça. Et donc, je l'ai abandonné, bien sûr, parce que je suis parti sans bâton, parce que j'ai fait plein d'erreurs. et puis parce que j'étais pas au niveau, tout simplement. Mais voilà. En fait, l'idée, c'était aussi l'idée de... En fait, je me suis rendu compte que les gens qui abandonnaient pas, souvent, c'est qu'ils faisaient des défis qui étaient à leur mesure, finalement. Et moi, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est justement d'augmenter le pourcentage de chances de pas réussir. Il y a une expression qui dit « vise la lune, si tu la rates, t'auras les étoiles ». C'est un petit peu ça. Et donc, après, j'ai mis en place l'idée que finalement, la ligne d'arrivée, c'est moi qui choisissais. Donc, si je choisis que sur une épreuve de 150 km, elle est à 100 km ou même à 50, c'est pas grave du tout. Et puis, jusqu'au jour où j'ai fait un 24 heures, j'avais des objectifs assez, alors là, comme d'habitude, assez élevés. Et puis, j'ai fait un abandon un petit peu d'enfant gâté, j'ai appelé ça. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme quand tu joues dans un jeu vidéo et tu te rends compte dès le début, tu joues à un jeu vidéo, et puis dès le début, tu te rends compte que tu battras pas ton record. Donc tu recommences plein de fois, mais c'est dès les premières secondes, tu sais. Et tu vois, c'est une espèce de... Tu recommences comme ça incessamment, et là, j'ai fait un petit peu ça. Et si tu veux, c'est un petit peu le 24 heures qui a mis le... Ouais, où je me suis dit, là, c'est bon, t'as compris l'abandon. Normalement, tu devrais plus trop abandonner, en tout cas pas pour les raisons, pas pour des raisons. Et là, j'ai vraiment senti mon mental passer un cran. C'est-à-dire que il y a plein de, je pense qu'il y a 90% de mes abandons qui n'étaient pas, ou voilà, où j'aurais pu continuer. Enfin, non, peut-être pas 90%. Ouais, un bon 50%. Donc il y a déjà ce côté-là. Et puis il y a le côté aussi. Complètement le lâcher prise et vraiment la joie dans l'abandon. Je vais donner un exemple. Il y avait une course qui s'appelait Cannonball, qui était l'idée c'était de longer tout le littoral aquitain. Ça fait à peu près 120 km, donc la pointe de Grave au Cap Ferré, je crois. Et donc ça fait 120 km, c'est vraiment super. Et comme beaucoup de courses en ligne, type la Saint-Élion, par exemple, la Lyon-Saint-Élion, exemple, bah tu te dis, oui, mais alors où est-ce que je mets la voiture? Je la mets au départ, à l'arrivée, tout ça. Bon. Et puis finalement, quand tu es coureur d'ultra, tu te dis, bah non, bah je vais mettre la voiture à l'arrivée, je vais aller au départ en courant, et puis après, je vais faire la course. Donc là, on s'était dit ça. Donc la Lyon-Saint-Élion, j'ai fait partie de la toute première édition, et où justement, attends, excuse-moi, et où justement, en fait, on s'était dit, tu m'entends?
Oui, je t'entends, oui.
Ouais. Et on s'était dit, ouais, où on met la voiture, etc. Donc on va aller à Saint-Étienne en courant, puis on va faire la course ensuite au retour. Donc là, après, 2-3 ans plus tard, avec un pote, on se dit, tiens, on va faire la Cannonball dans un sens, au départ, et puis on va la refaire dans l'autre sens. Alors là, c'était 120 km, hein, donc on a mis à peu près 24 heures pour faire les 120 premiers kilomètres. Et puis au retour, on part dans la course, et puis bon, je t'avoue que j'avais eu 2-3 heures de sommeil entre les deux, c'était un petit peu tendu. Et là, au 42e kilomètre, en fait, 42e, la distance dont il ne faut pas me parler, enfin voilà, là où je peux abandonner, je me dis, tiens, il y avait mes parents qui étaient au ravitaillement, et puis c'était une époque où je ne les voyais pas souvent. Et puis donc je me dis, tiens, je vais y arriver globalement à l'heure de dîner. Mmh. Et puis dans ma tête, à partir du 35e, ça commence à devenir dur, et je me dis, tiens, je vais arrêter là. Et puis on va se faire un super resto. Et là, mais à partir du 35e, tout devient un bonheur, quoi, en fait, parce que tu sais que tu vas t'arrêter, tu sais que c'est bientôt fini, tu sais que tu vas pas terminer, mais que quand même, tu as fait au total 160 km. Moi, à l'époque, c'était la plus grande distance, et tu vois, et je me suis vraiment parfaitement satisfait de ça, quoi. Et on a passé une super soirée, tu vois, j'ai tout eu. C'est-à-dire que si j'avais été au bout de la course, ça aurait été que souffrance et douleur et désespoir et haine. Et là, tu vois, c'est un de mes meilleurs souvenirs de course, en fait. Et pourquoi, sous prétexte qu'il ne faut pas abandonner, avec plein de guillemets, on ne serait pas réceptif à des moments comme ça qui peuvent être juste magiques, quoi. Et des exemples comme ça, j'en ai plein, en fait, où l'abandon, en fait, est super libérateur, mais vraiment positivement libérateur. Tu te dis, on n'est pas des machines, tu apprends aussi à accepter ce que tu fais, tu apprends aussi... ça joue pas mal sur l'estime de soi aussi, sur... Moi, je fais des mentorats dans la vraie vie, donc je mentore, j'ai beaucoup de jeunes, etc. Et je leur dis souvent ça, je leur dis, vraiment, arrête d'avoir une exigence surdimensionnée par rapport à ce que tu fais, sois content de toi. Parce que ce que tu fais, c'est vraiment bien. Et de toute façon, même si c'est pas aussi bien que ce que fait le voisin, c'est bien parce que tu le fais et point. Et tu vois, t'as pas. Et après, c'est bien d'être dans une dynamique de progression, etc. Et de se dire, voilà, je vais essayer de m'améliorer. Et puis, mais il y a le temps. Enfin, c'est long une vie quand même. Donc, c'est...
Ouais, j'ai fait un épisode sur les accords Toltec il n'y a pas longtemps qu'on pouvait appliquer aux coureurs en disant, il y a un accord, c'est fait de ton mieux avec ce que tu as au moment où tu l'as, en fait. Qui est pour le coureur qui est quelque chose qui est important, puisque c'est vrai qu'on est dans la comparaison. Et bon, t'as un profil Strava, tout le monde a des profils Strava ou presque, en regardant les temps, en disant bah tiens, attends, j'ai couru qu'à 9 km/h aujourd'hui. Dans l'épisode précédent, le coach il disait qu'il faisait courir Thomas à 8 à l'heure en l'échauffement. Les gens ils regardent les trucs, ils disent mais attends, mais t'as traîné.
Oui. Ouais, sinon, on regarde tes temps après un ultra, on dit ouais, t'as fait une rando. Bah ouais, j'ai fait une rando. D'ailleurs, l'ultra, c'est une petite définition aussi. Hein, c'est pas un marathon en plus rapide, en plus long. Non, c'est pas un marathon en plus long, c'est plutôt une rando en plus rapide. Et je pense que ça, c'est une meilleure définition. Et il y a un moment où, c'est vrai, quand on commence à courir des ultras, on se dit tiens, on voit ses moyennes horaires, mais c'est vrai qu'on est facilement sur un ultra de montagne. Quand on est à 5 km/h de moyenne, c'est génial, c'est déjà un très bon niveau. Et là, c'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un qui vient. Enfin, moi, on ne me l'a pas trop dit, mais j'ai eu des échos. Et puis, voilà, tu cours ton premier ultra, c'est le premier truc qu'on te dit, c'est pas très valorisant. Et surtout que t'en as vraiment chié, tu sais toi que t'en as chié. Donc, mais bon, après c'est aussi à ça que ça forme. Hein. On fait de la compétition, des courses ou pas. Moi c'est vrai que j'en fais pas trop des courses, plus trop en tout cas. Mais on fait ça pour soi avant tout et puis aussi pour partager. Là, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux aussi aujourd'hui qui permettent de partager avec plein de monde, de choisir aussi avec qui on partage, avec qui on a envie de voir, qui on n'a pas envie de voir. Enfin c'est absolument génial quoi. Et là voilà donc finalement c'est ouais on peut ça permet vraiment de travailler l'estime de soi je pense.
Mais alors, moi, il y a un truc sur lequel je dois revenir quand même, c'est que tu as fait le premier UTMB. Alors, je suis en train de regarder, tiens, je suis sur la fiche Wikipédia. Il y avait 722 partants, il y a eu 67 finishers seulement. Donc, c'est vrai que, alors là, en hécatombe, on va dire, en pourcentage de filles, on est à moins de 10% quand même. Donc, tu nous as dit que tu as fait beaucoup de courses, mais c'est vrai que je ne t'ai même pas demandé ton parcours. Parce que finalement, attends, je me dis, le premier UTMB, c'est 2003. Donc, il y a 18 ans.
Ouais, ça fait un moment. Ça, d'ailleurs, c'est une petite fierté. Alors, si tu parles de la longévité, c'est une vraie fierté parce que c'est ce que je dis depuis le début. C'est-à-dire que depuis 2003, moi, je suis déjà dans cet état d'esprit-là de tenir longtemps et de refuser en fait tout ce qui est désagréable dans la course à pied. Et sachant que ça n'empêche pas que je fais des séances très dures. Là, avant-hier, j'ai fait des 200 mètres. J'arrivais plus à respirer. Je sentais vraiment le enfin. Il y avait tout ce qui était interne qui avait juste envie de sortir, quoi. Poumons, cœur, etc. Mais on se sent vivant. Et après, c'est pas de la douleur par masochisme, c'est de la douleur parce qu'on atteint des paliers et parce que aussi, quel bonheur de sentir son corps être capable de faire des choses comme ça, quoi. Et là, c'est pareil, à cet UTMB-là, s'il va. Là, tu vois, tu regardes autour de toi la ligne de départ, tu dis juste que là, ils ont tous compris, sauf toi. À part le Strasbourgeois qui est en short t-shirt, j'avais un pote qui s'est retrouvé dans une grange, à dormir dans une grange, enfin, ils l'ont recherché, lui, il était tranquille dans sa grange en train de dormir. Enfin, je pense que les organisateurs de l'UTMB s'en rappellent encore, hein, de Nicolas. et voilà, mais on est dans un truc complètement, complètement hallucinant, ubuesque, en fait, personne ne sait ce qui l'attend, en fait. Parce qu'à l'époque, il y a une ou deux courses comme ça. Donc, on a ceux qui sont habitués. À l'époque, il y avait une course équivalente qui s'appelait la Fortige de Maurienne, qui a disparu, qui était un petit peu l'équivalent. Mais là, on a quand même 700 concurrents. Le balisage en Italie qui n'est pas prêt. L'organisation qui est vraiment. Aujourd'hui, il ne ferait jamais partir la course dans ces conditions-là, c'est clair. D'ailleurs, ils ont annulé des éditions avec des conditions météo, même moins dantesques que là, quoi. Là, ça ravinait de partout. Enfin, c'était vraiment la folie, quoi. Mais oui, de 2003, ouais. Et donc toujours autant envie de faire des longues courses, toujours D'ailleurs, je me suis mis à l'ultra. Petite anecdote. Donc, je courais depuis une dizaine d'années à peu près. Et puis j'avais souvent mal au dos. Et bon, je vais faire une radio, hein, comme toute personne sensée qui se respecte. Et puis là, je vois que j'ai un pincement L5 S1. Donc, vertèbre L5 et S1. Donc, un joli pincement. Et puis, allez, comme j'ai l'ostéo qui m'a fait un pack, hein, tu as les pieds hyper creux, en plus je m'étais foulé des chevilles, donc j'ai les chevilles un petit peu de travers, enfin bon, là, alors là, pour me voir, je ne ressemble pas non plus à Quasimodo, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que j'ai pas le profil type du coureur, ni d'ultra, ni de rien du tout. Hein. Là, le conseil, c'était donc de mon cher ostéo, que je ne suis plus jamais allé revoir d'ailleurs après, mais qui était... tu vas faire 1 ou 2 ans de course à pied, puis après tu vas t'arrêter. Et comme souvent, moi, il suffit de me dire ça. En fait, je pense que toutes les victoires que j'ai eues en compétition, c'était de natation ou autre, ça a été quand on m'a mis un petit peu dans ce truc-là où non, tu vas pas le faire. Parce que t'as un truc qui fait que toi, tu peux pas le faire. Et ça m'agace un petit peu. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire l'ultra. Et je te jure, c'est la vérité, j'ai plus jamais eu mal à ma L5 S1, quoi. Et alors oui, j'ai eu des petits épisodes de sciatique, etc., parce qu'il y a des courses qui étaient un petit peu difficiles et tout ça, mais normal, pas plus que quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que là, voilà, ça fait longtemps que je le fais, et en fait, je me suis dit, bon, j'ai même essayé les semelles parce que j'ai les pieds très très creux, et j'ai essayé 2 fois quand même. Et 2 fois, j'étais obligé de m'arrêter 4 mois parce que ça m'a provoqué des sciatiques assez graves. Et donc 4 mois d'arrêt à chaque fois. Donc je me suis juste dit, en fait, prends des chaussures universelles, même pas chaussures pronateurs. Enfin, je donne pas un conseil, hein, mais le conseil que je donnerais, c'est vraiment laisser à votre corps le temps de s'adapter, en fait. Donc c'est peut-être pas la peine de faire des fractionnés tous les jours si votre corps est pas adapté. En fait, en laissant à son corps le temps de s'adapter, on peut être complètement de traviole et finalement courir des distances assez importantes, et puis toutes les distances, quoi. Il n'y a pas à se dire, ouais, je vais courir que de l'ultra maintenant et puis je vais me transformer en diesel et je vais courir tout le temps à 8 km/h. Non, mais je continue à courir Là, j'essaie de battre mon record de 5 km qui a 5 ou 10 ans. Et voilà, et puis on s'amuse toujours, quoi.
Ouais, mais pour rebondir dessus, j'ai vu une vidéo hier qui était intéressante sur les histoires de blessures, parce qu'on dit que le coureur à pied, ça fait mal au genou, c'est l'arthrose et c'est le dos. En fait, les deux grands trucs. Et donc sur l'arthrose, c'était montré, il y a des études qui ont été montrées que c'est pas vrai du tout, en plus. Il y a des gens qui ont de l'arthrose, pas de douleur, ceux qui ont des douleurs, pas beaucoup d'arthrose, etc. Qu'il y a plein de facteurs qui jouent. Et qu'en plus, c'est pas la course à pied qui l'use. Et puis sur le dos, il montrait que les disques intérieurs des vertébraux, notamment, gagnaient en qualité. Et en force grâce à la course à pied. Donc c'est totalement l'inverse, oui, du discours des ostéos pendant des années, en fait.
Ah oui, mais c'est pour ça que, et là désolé pour mes amis médecins, ostéos, kinés, etc., mais ça fait, je pense, 20 ans que je vais plus chez un médecin ou un ostéo. Alors j'avoue que j'ai photoshopé quelques certificats médicaux, j'avoue, arrêtez-moi tout de suite, mettez-moi les menottes, mais non, c'est plus possible parce que. Déjà, il y a toujours un moment où tu te retrouves devant le kiné qui te dit non, moi je peux rien faire, vous êtes une Formule 1 pour moi parce que tu cours deux ultras. Et donc, véridique, hein, j'ai un kiné qui m'avait dit ça une fois. J'étais très flatté, mais j'avais un problème à résoudre et il n'a pas pu m'aider. Donc, j'étais un petit peu frustré aussi. Mais au-delà de ça, c'est vrai que j'ai. Alors, que ce soit bien clair, j'ai rien contre ces métiers-là et faut y aller. Enfin, faut y aller après. Mais. Faut surtout s'écouter aussi, et faut surtout s'écouter et faire attention un petit peu à toutes les études, les choses qui, parce qu'on voit sans arrêt cycliquement en fait des idées très sérieuses ou des études très sérieuses battues en brèche ou contredites par d'autres études et qui elles-mêmes vont être contredites par d'autres études, et donc à un moment c'est ouais, stop, on va arrêter le carnage. Écoute-toi, écoute un petit peu ton corps et qu'est-ce qui te dit, et t'arrives à courir, t'as pas mal, tu continues à courir, point. T'as pas besoin de mettre ceinture et bretelles pour courir. Je veux dire, c'est normal d'avoir mal, c'est normal de se blesser un petit peu. D'ailleurs, quand est-ce qu'on considère qu'on se blesse, puis quand est-ce qu'on considère qu'on a qu'on a juste mal. Tu vois, moi, quand j'ai commencé à courir, dès que j'avais mal, j'étais blessé. Et c'est vrai que c'est et c'est vrai que c'est un problème de beaucoup de coureurs. Tu vois, t'as une petite tendinite, t'es blessé et donc t'arrêtes de courir. En fait, on peut très bien courir avec une tendinite et même souvent, ça la fait passer aussi.
Mais c'est vrai ce que tu dis sur l'histoire de certaines petites blessures. Enfin, après, il y a grosses blessures, petites blessures, etc. Parce que je peux pas dire le contraire. Moi, je sors d'une opération du genou. Donc, à un moment donné, le genou, il a enflé dans tous les sens à chaque fois que je courais. Par contre, tu vois, je me rends compte, en ce moment, j'ai des douleurs au dos. Et ben, je me rends compte qu'en fait, le seul moyen de les faire passer, c'est de marcher ou d'aller courir. Alors, dès que je bouge, j'ai plus mal. Et ce qui me fait mal, en fait, c'est de rester. Ben, tu sais, on parlait du canapé au début. Là, ma chaise de bureau, là, tout de suite, tu vois, je sens que quand je me suis relevé, t'as même pas vu, mais je pars un petit peu branlant, tu vois, j'arrive pas à me relever, etc. C'est ce qui montre aussi que le corps, il est fait pour bouger.
Ouais, complètement. Il est fait pour bouger. Moi, c'est pareil. Hein, enfin, ça fait 2-3 ans que j'ai plus trop ça. Mais quand j'ai dit un moment, hein, j'étais un feignant, et c'est vrai que je suis assez feignant de nature. J'aime bien attendre d'avoir la solution plutôt que chercher et puis tâtonner tout ça et perdre du temps. Donc c'est vrai que après un UTMB, par exemple, sans problème, si je cours pas pendant 2 mois, c'est vraiment pas un souci du tout. Hein. Enfin, je suis pas du tout dans la bigorexie ou tout ça. D'ailleurs, tous les bigorexiques vont me dire ça, mais ça, c'est encore un truc. Les concepts fumeux voilà, qui disent juste aux gens, faites pas de sport, quoi. Alors que c'est. Enfin, bon, bref, je vais pas partir là-dessus. Mais donc, effectivement, le mouvement. Et c'est effectivement. Enfin, déjà, il y a des études qui le démontrent aussi qu'on récupère beaucoup mieux en bougeant. Après, ça peut faire un petit peu mal. C'est vrai que le fait de bouger, ça peut déclencher des douleurs et tout, mais c'est rarement aggravant. Et puis, moi, j'avais interviewé aussi à un moment, parce que bon, j'ai une période. Je sais pas si t'as vu ça, mais j'ai créé un magazine qui s'appelle Ultra Fondu. Dans les années 2000 et tout ça, ce qui m'a permis aussi de beaucoup courir, encore plus. Et donc, j'interviewais pas mal aussi de coureurs d'ultra, et ça m'a permis d'acquérir pas mal d'expérience aussi à travers eux. Et notamment un coureur qui s'appelle Jamel Bali, qui a fait plusieurs bouquins et qui a traversé le monde un petit peu dans tous les sens. On connaît aussi Serge Girard, hein, c'est un petit peu le même type de coureur, c'est-à-dire ils vont faire des 10 000, 20 000 kilomètres, traverser des continents et compagnie. Et il m'avait dit un truc sur une de ses premières expériences un petit peu longues. Il était allé de Lyon à Bruxelles, je crois, ou Amsterdam. Et puis il s'était fait un claquage. Il était allé jusqu'à là-bas avec son claquage. Et en fait, le claquage, ça s'était guéri. Et il m'a dit un truc que j'ai retenu, c'est toujours courir en deçà du seuil de la douleur. C'est-à-dire que c'est vraiment la douleur qui va te guider dans ta récupération. Si tu cours et que tu as une douleur vive, ou qu'après la séance, la douleur est encore plus vive qu'avant, ou tu sens que ça croît, ça veut dire qu'il faut que tu réduises. Mais tant que tu n'as pas ça, eh ben, tu cours plus lentement, ou tu marches. Et t'es sûr, mais à 100%, à 200%, que tu guériras beaucoup plus vite comme ça. Mais la douleur, c'est pour ça que je prends jamais d'anti-inflammatoire, même le paracétamol, par exemple, c'est autorisé en compétition, mais en fait, c'est pire que tout, parce que tu masques les signaux naturels du corps, et donc tu peux pas récupérer comme ça. Et c'est le meilleur moyen pour vraiment se casser, et voilà, et du coup, ne plus en revenir, quoi. C'est-à-dire que j'ai généré des douleurs très importantes. Donc, soit tu prends des anti-inflammatoires ou des antidouleurs et tu t'arrêtes complètement, soit tu continues et justement tu utilises ce signal-là pour ajuster en fait ton niveau d'effort. Et je pense que c'est ce que tu vis toi à travers la marche. C'est-à-dire que tu marches sans douleur, tu te rends compte que ça te fait du bien. Et si ça te faisait pas du bien, tu trouverais sûrement une autre forme de mouvement aussi pour continuer un petit peu. Et de toute façon, voilà, après, ça peut être des assouplissements du dos, ça peut être des choses comme ça,
Mais il y a un truc qui marche bien. Bon, on va revenir un peu sur 6 heures de challenge, hein, c'est drôle après. C'est les squats. C'est fou parce que tu sais, quand t'as mal au dos, tu dis bon, et tout. Mais en fait, le squat, qui est un mouvement, bon, polyarticulaire, qui fait bouger plein de trucs, eh ben, il me soulagerait presque. Alors, je dis pas, je vais me faire, bon, sans squat, franchement, c'est pas le problème de faire sans squat dans la journée. Moi, c'est les pompes aussi maintenant, tu vois, j'ai des trucs. C'est juste que j'avais pas fait le côté, les sans abdos et 10 km de course tous les jours, mais je m'étais rendu compte qu'en fait, à un moment donné, j'en étais pas très loin du challenge. Mais les squats, par exemple, et l'autre jour, j'ai vu une vidéo de Major Mouvement que j'ai reçu en début d'année sur le podcast, qui explique extrêmement bien dans son bouquin, justement, comment les muscles, quand il y a des douleurs, comment le muscle, en fait, les fibres vont se détruire et puis vont être reconstruites encore plus fortes, et que c'est pour ça qu'il faut bouger dessus. Et il le dit que la tendinite, le meilleur moyen de soigner une tendinite, c'est de bouger, en fait, et pas d'arrêter tout. Et il en parlait, justement, que le squat soulageait le mal de dos. Alors, je lui dis, bah, tiens, ça confirme, moi, mon expérimentation, confirme en fait exactement ce qu'il disait, c'est-à-dire que ça peut paraître totalement bizarre comme ça, mais en fait le fait de bouger quand on a mal des fois, c'est ce qui fait qu'on va remettre un petit peu le corps, le permettre de s'adapter à ça en fait.
Ouais, non, c'est complètement contre-intuitif. Moi j'ai une petite routine par exemple pour aller dans ton sens hein, j'ai une petite routine sur la TFL, la tendinite du fascia lata, justement là-dessus, c'est-à-dire sur le continuer le mouvement, c'est-à-dire que ce qu'on en fait ça c'est une tendinite souvent qui fait très très mal quand on court lentement. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a la petite bandelette là qui vient frotter le petit os qui sort à côté sur le côté du genou là, à l'extérieur du genou, et ça fait extrêmement mal. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en courant vite, j'avais plus mal sur une TFL qui durait depuis des semaines. Je me suis dit, on va aller au bout de la logique, comme d'habitude. donc j'ai fait une séance de VMA. J'ai pas eu mal du tout, mais j'ai évité de courir lentement justement parce que j'ai évité le mouvement qui faisait mal. Et en fait, c'est ça la clé. C'est toujours en deçà du seuil de la douleur, mais ça veut pas dire aller lentement systématiquement. Ça peut être parfois aller plus vite. Là, j'ai une petite tendinite au genou là qui vient un petit peu. C'est pareil, qui se déclare quand je cours lentement. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais en profiter pour essayer de battre mon record sur 5 km. Comme ça, je vais faire pas mal de d'entraînement rapide. Mais et voilà. Et donc ma petite routine sur la TFL, c'est ça, c'est faire des séances de VMA, très peu, courir très peu lentement, s'étirer ce tendon-là aussi, puisque les tendinites, ça c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il ne faut pas toucher au tendon, mais en fait, en l'étirant, et alors pas comme une brute, mais en l'étirant, ça aide aussi. Et finalement, j'ai plus de problème de TFL, et alors ce qui est assez marrant, c'est que j'ai souvent conseillé ça. Et je crois que toutes les personnes qui ont suivi cette routine avec application ont vu leur TFL disparaître. Donc après, je suis pas médecin encore une fois, hein, c'est peut-être juste une succession de coïncidences, hein, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui dit surtout les idées reçues, il faut courir moins vite, là machin, il faut que tu fasses ça, il faut que machin, etc. C'est ayez votre bon sens quoi. Ayez votre bon sens et surtout écoutez votre corps et c'est lui qui vous envoie tous les signaux qui sont importants, il vous les envoie et à partir du moment où peut-être aussi grâce aux appareils, hein, moi c'est avec le cardiofréquencemètre par exemple, ça m'a énormément appris à lire mon corps parce que j'ai appris grâce à ça à voir quand j'étais en surchauffe de manière scientifique et puis à l'associer à plein de sensations et c'est vrai que du coup j'ai appris plein de trucs beaucoup plus rapidement que si j'avais été vraiment il y a 80 ans par exemple où on n'avait rien et alors peut-être que j'aurais appris différemment hein, mais je pense qu'avant on connaît bien les agriculteurs qui savent la forme des nuages, s'ils vont avoir une bonne récolte et tout ça, mais ça c'est un savoir qui est issu de siècles et de siècles d'observation. Et là, nous, on a des tas d'outils comme ça qui permettent en très peu de temps finalement d'apprendre à se connaître vachement bien, quoi. Et c'est vrai que ça sur la lecture de soi-même, c'est tellement important en fait, tellement important de pas déléguer ça même à un médecin qui finalement, qu'est-ce qu'ils font les médecins, ils te demandent ce que t'as. Et moi, j'ai une admiration sans borne pour les vétérinaires. C'est-à-dire que là, quand tu demandes à une vache, enfin, quand t'as une vache qui a, ou un chien, ou que sais-je, qui a une blessure, qui a mal, qui gêne, etc., tu peux pas lui demander, ah, t'as mal où ? C'est ton genou qui fait mal, ça craque. Non, il peut pas demander. Et ils trouvent. Et ils ont une qualité de diagnostic qui est absolument hallucinante, quoi. Et j'ai l'impression qu'on perd un petit peu ça dans la médecine traditionnelle. Enfin, moi, j'ai jamais trouvé la perle rare, le médecin qui vraiment allait avoir une approche comme ça. Et c'est vrai que tu parles de Major Mouvement. Dès que j'ai vu sa première vidéo, je me suis dit, ah, Voilà, c'est la première vidéo que j'ai vue, c'était sur mal de dos, et je me suis dit, mais voilà, c'est pas compliqué, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est des, on raconte des conneries, et lui, il est, enfin, c'est un petit peu le champion de jouer au baltrop avec les conneries, quoi. Et ouais, c'est assez excellent. Ouais.
Ouais, alors on va faire un petit clin d'œil à
fond,
on fait un petit clin d'œil à Tonio aussi, qui est un ancien invité et qui est justement vétérinaire et qui a une caractéristique comme toi, c'est de courir tous les jours. Alors il a fait une petite pause lui dans son défi parce que je lui demandais jusqu'où il allait courir et puis en fait il a une périostite qui l'a rattrapé, donc il a fait une petite pause, mais pas longtemps. Hein, il a repris son activité quotidienne et c'est un des points communs que vous avez. C'est assez drôle. Pour revenir sur les défis quand même, il y a un truc dont on n'a pas parlé et tu vois moi je regarde l'heure comme ça, on tourne et tout. Et c'est ton défi, comment t'appelles ça, le challenge Hercule?
Ah, Hercule challenge.
Parce alors, que là, quand même, il faut en parler parce que là, c'est un truc, c'est costaud, quoi.
Alors ouais. Alors ce que je garde toujours en tête et ce qu'il faut garder en tête, c'est que la base, c'est le sport tous les jours. Donc les 10 km par jour, ça, c'est vraiment, je peux pas descendre en dessous de ça. Et puis après, effectivement, comme on disait tout à l'heure, se mettre des petits défis, des petits ou des gros défis. Et donc l'idée, c'était que pour ma 50e année, là, j'explose un petit peu les compteurs et je fasse vraiment un truc un petit peu velu, quoi, parce que c'est vrai que le Saitama... Et donc, l'idée, c'est... Alors, moi, j'aime bien tout ce qui est légende, machin, donc les 12 travaux d'Hercule, ça me parle, et puis ça parle un petit peu à tous les sportifs. Et l'idée, c'était de revisiter un petit peu ça et puis de se dire, bah, chaque mois, je vais faire un défi particulier. Donc, alors, avec pour l'objectif final de... Puisque moi, mon truc un petit peu ultime, enfin, pour l'instant, hein, en tout cas, l'expérience que je trouve la plus intéressante et qui m'a plus apporté en ultra, c'est de faire des 6 jours sur tapis. Donc, j'en ai fait 4 et c'est vraiment une expérience très très particulière et que je maîtrise pas du tout encore. Et donc l'idée, c'est aussi à travers cette année-là de monter progressivement ou non, mais en tout cas de monter en volume de manière à être capable de tenir le choc sur 6 jours tapis. Parce que c'est, alors, 1 ou 2 jours, ça passe relativement bien quand t'es bien entraîné, puis après t'es vraiment dans un autre monde et c'est compliqué. Donc le Hercule Challenge, c'est en fait un mix de montée en charge en distance et puis d'autres défis qui sont des défis un petit peu plus, enfin, donc 1 mois sur 2 normalement, qui vont permettre de récupérer de la montée en charge. Alors j'ai un petit peu bousculé le truc et puis voilà, mais en janvier du coup j'ai fait 20 km par jour. Après, comme les 20 km par jour sont moyennement bien passés, j'ai terminé un petit, enfin j'ai eu un petit peu mal à la hanche et tout ça, je me suis dit là en février j'ai mis un autre challenge qui devait venir plus tard mais qui était 60 km de vélo par jour. Alors comme c'était en février, c'était assez compliqué de courir 60, enfin de faire 60 km de vélo dehors, donc j'ai tout fait sur home trainer, donc j'étais sur Zwift et puis donc ça a donné 2 heures de vélo plus les 10 km, parce que ouais, on n'oublie pas les 10 km du Saitama Challenge, donc ça c'était l'annexe. Donc ça c'était janvier-février. Alors, j'ai dû faire un déplacement imprévu, et donc j'ai raté 1,60 km. Donc du coup, je valide pas ce défi. Bon, après, il y a plein de gens très, très bienveillants qui m'ont dit « Oui, non, mais dans l'idée, tu le valides, etc. » Bon, c'est vrai que techniquement, je pouvais le faire. Enfin, physiquement, je pouvais le faire. Mais bon, j'aime bien aussi l'idée, justement, c'est toujours l'abandon. Toujours valider que tu n'as pas de problème avec l'abandon et que même si tu valides pas stricto sensu le truc, ça ne te pose pas de problème. C'est bien, de temps en temps, une petite piqûre de rappel. Donc, voilà. Donc, au bout du compte, je sais qu'au bout de l'année, j'aurais pas validé le Hercule Challenge, mais c'est pas grave. Et donc voilà, donc il y a un certain nombre de défis. Donc là en mai, je suis monté à 30 km par jour. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a un défi que j'aurais dû faire que j'ai pas fait, qui était de faire. Ah oui, tous les. Je sais pas si tu connais Freeletics, mais Freeletics, c'est des entraînements un petit peu. Puis donc c'est des ce qu'on appelle des workouts, des entraînements gymnastiques poids de corps où en fait on va. Voilà, chaque entraînement a un nom de Dieu, et puis l'idée, moi, c'était je fais du Freeletics depuis 2012 à peu près, pas en continu, mais c'est là où j'ai commencé. En fait, l'idée, c'est de prendre tous les workouts que j'avais déjà fait, donc il y en avoir une trentaine à peu près, puis tous les faire dans le même week-end. Celui-là, il reste un petit peu en suspens. Il y avait un autre. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, il y aura un marathon par jour, il y aura 1 500 km par mois, ça j'ai pas encore fait, ça va être très très difficile. Ah oui, il y avait aussi faire un. Puisque je monte progressivement pour aller aux 6 jours, donc il y a 20, 30, 42 km par jour pendant un mois, et puis il y a aussi des défis plus ponctuels sur un week-end, donc qui me permettent de récupérer aussi pendant le mois. Et donc il y en a un que j'ai fait le mois dernier qui était de courir pendant 24 heures. Alors là sur mon Insta j'ai lancé une petite un petit sondage. Moi je voulais le faire sur une piste cyclable, faire des allers-retours sur une piste cyclable tranquille avec la voiture, puis ravitaillement pépère, puis faire un maximum de distance. Et puis je me suis dit tiens, je vais demander à ma micro communauté de gens très actifs quand même, est-ce que vous préférez que je fasse des petits allers-retours sur ma piste cyclable comme ça, avec ravitaillement en voiture? J'ai un petit peu poussé quand même pour qu'ils aillent vers ça. Et puis, ou alors, j'ai une autre idée qui est de faire de partir de Roanne, là où j'habite, puis d'aller à Lyon en passant par Saint-Étienne, ce qui ferait à peu près 140 km. Bon, l'idée, c'est de courir. Et j'ai eu 75% de Roanne, Saint-Étienne, de nuit, dans le froid, etc. Ils s'en foutent, quoi, qu'il y ait des voitures, que ce soit dangereux, tout ça. Donc voilà. Donc, je me suis dit, bah écoute, tu vas relever le défi. Et puis, donc ça, c'était le défi de juin. Ouais, de juin. Non, de mai. Je m'y perds. Non, c'était le défi de juin, ouais.
Oui, juin, parce que je suis en train de regarder. C'était il y a 16 juin. Voilà, je suis sur l'image, en fait.
C'est ça. Et donc, c'était le 16 juin, effectivement. Et donc là, ben voilà. Je suis pas arrivé à Lyon, mais j'ai couru mes 24 heures. Donc, c'était ça, le défi. Et puis voilà, ça c'est, enfin c'était cool. J'ai fait les 24 heures. Il y a un de mes contacts Instagram d'ailleurs, Nicolas qui est venu à la fin, qui m'a accompagné pendant les 10 derniers kilomètres. C'était hyper sympa. Alors lui, il est venu avec toute son énergie, c'est le mec hyper souriant et tout ça. Et c'était juste génial parce que en plus on était dans une portion vraiment désagréable sur la route où ça serpentait. Et donc on était obligé de changer de côté quasiment à tous les virages parce que pour pas se prendre une voiture. Donc lui était avec son vélo, il est venu de Lyon quand même à vélo. Il a fait une vingtaine de kilomètres pour faire les 10 derniers kilomètres avec moi. Et je parlais des moments. J'ai pas fait les 140 kilomètres comme j'avais prévu. D'ailleurs dans ma tête j'étais plus à 160 qu'à 140. Finalement je fais 120. Donc ça met aussi les choses en place. Mais voilà, et ça c'est typiquement le genre de moment que j'adore, quoi. C'est-à-dire que ça se termine et finalement ce que je retiendrai de ce défi-là, c'est pas tellement le fait d'avoir fait 120 ou d'avoir tenu 24 heures, c'est à la fin, voilà. Moi je le connaissais pas, Nico, et là on est potes et voilà, ça se termine comme ça et c'est que du bonheur. Et puis le lendemain je recommence ma routine de 10 km par jour et puis ça repart.
Ça repart. Et d'ailleurs, sur Insta, pour ceux qui se posent la question, tu fais la photo du passage de l'entrée dans l'ultra. Donc, tu montes quand tu es à 42 km. Tu fais la photo en signe. Bah, maintenant, ça y est, je passe dans l'ultra.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est souvent, je dis aux marathoniens, aux gens qui font leur premier marathon, tiens, cours juste un mètre après la ligne. Et en plus d'être marathonien, tu seras coureur d'ultra. Et j'ai fait j'ai accompagné un pote sur son premier marathon. C'était le marathon de Paris et lui, il voulait le faire en moins de 5 heures et tout ça. Et j'arrêtais pas de l'embêter avec cette histoire de ouais, pense au dernier kilomètre, au passage de la ligne et fais ton mètre après. Et puis je lui en parle comme ça un petit peu pour passer le temps pendant les 20 premiers kilomètres. Et puis à partir du 25, il commence vraiment à entrer dans le dur. Là, je me suis dit, je vais arrêter de le bassiner avec ça. Et puis là, il vit vraiment 17 kilomètres très très dur. Et puis plus ça avançait, plus c'était horrible. Mais voilà, on était là, on continuait à discuter, je faisais la radio et puis ça passait. Et puis finalement, il arrive à la fin. Et à la fin, dans les 100 derniers mètres, il me dit, la file, on va recommencer à courir. Il recommence à courir et il me dit, je vais le faire, ton maître, je vais le faire. et c'était tellement intense. J'ai fait plus d'une centaine d'ultras. La plus grosse intensité que j'ai eue à l'arrivée d'une course, c'est ça. C'est ce pote-là qui passe ça et qui vit ce moment super intense. Et toi, tu l'as aidé et tu as vécu ce moment-là avec lui. Et c'est toujours dans l'idée que c'est pas la peine d'aller chercher des aventures à l'autre bout du monde. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de terminer un ultra complètement cassé et de vouloir m'arrêter à 2 km avant, en fait, simplement parce que c'est pas l'idée que je me fais de la joie de passer une ligne d'arrivée. Et j'ai même une fois, le premier UTMB que j'ai terminé, j'ai un pote qui est d'ailleurs, il y a beaucoup d'amis en fait qui viennent dans mon histoire, hein, mais qui allait lui beaucoup plus vite que moi, qui était beaucoup plus à l'aise. Il est venu me rechercher en fait, parce que j'avais fermement décidé de m'arrêter 2 km avant pour la première fois où je bouclais l'UTMB, quoi. Et ça faisait 15 heures que j'avais mal aux pieds et tout ça, et c'était pas comme ça que je voulais le faire. Ça peut paraître un petit peu débile comme ça, mais ouais, pour moi c'est important de pas associer ces moments-là qui sont juste des moments de plaisir, quoi. On n'est pas là. Enfin, tu parles aussi de ta situation professionnelle avant de courir et tout ça, et c'est vrai qu'on a tous vécu des moments comme ça de stress intense au boulot ou des moments un petit peu dramatiques dans nos vies, et finalement, on fait pas du sport pour faire ça, quoi. Ça doit être que du bonheur.
Mais c'est vrai, en plus, c'est des discussions qu'on a eues, notamment parce que, tu sais, avec certains coureurs, on a fait un épisode il n'y a pas longtemps avec Nicolas, qui court en sandales, et tu vois, qui est parti faire le Vercors en sandales et tout, qui m'a dit, cette année, moi, je me fais mes défis, mais je ne prends pas de dossard officiel, quoi. Il n'y a pas de course officielle, etc. C'est un peu revenir à l'essence, tu sais, du trail tel que c'était présenté, tel que tu le vois dans certains documentaires d'ailleurs, tu vois, dans l'histoire du trail, etc. Que toi, c'est pour ça que je revenais sur le fait que tu as couru le premier UTMB, parce que finalement, quand on voit la machine que c'est, et quand on voit les courses à l'époque, comment c'est un monde qui est totalement différent. Mais c'est vrai que on a aussi besoin de revenir à ça, et on y revient un peu par la force des choses, parce que les offs sont revenus plein badin parce qu'il n'y avait plus de courses qui étaient possibles, et les gens vont aussi découvrir. Je pense qu'il y a un autre moyen que d'avoir un dossard et de courir selon... j'ai envie de dire ce qui est imposé par l'organisateur, le temps, les montres, les autres, etc.
Ouais. Non, mais c'est ça d'ailleurs, c'est vraiment. Tu me le dois sur aussi un truc important, là. Encore une fois, je pense que quand on est coureur à pied, on s'entraîne pour faire des courses. Mais je pense qu'on fait des courses pour s'entraîner à faire autre chose. Parce qu'il y a un moment où, en fait, les organisateurs, ils sont très imaginatifs et ils ont une énergie complètement dingue. Ils font des trucs hallucinants. Mais il y a un moment, en fait, où il n'y a plus ce que tu cherches. Moi, quand j'ai voulu faire des 6 jours sur tapis, il y avait personne qui faisait des 6 jours sur tapis. Et quand je veux faire... si je me dis je vais faire un 24 heures entre deux villes, etc., ou rejoindre deux villes, ou faire un truc un petit peu comme ça, juste comme ça, ou avec des potes, ou un off, ou tout ça, ben il n'y a pas d'organisateur qui peut m'amener ça. Et finalement, moi, l'UTMB, j'ai fait les 6 premiers, j'en ai terminé 2, et ça m'a appris la montagne, en fait. C'est-à-dire que grâce à ça, maintenant, j'ai plus peur d'aller en montagne. Je sais comment je peux refaire l'UTMB en solo. Avant, ça me faisait peur, la montagne. C'est-à-dire que je me disais, là, tu te prends un orage dans la montagne, c'est foutu, t'es mort. Et c'est pas loin d'être faux, hein. On a vu il y a quelques années des courses où des coureurs s'étaient pris en blast aussi, avaient été assommés, étaient morts d'hypothermie sur une course. Enfin, c'est très dangereux, la montagne. Mais tu sais aussi, c'est vraiment l'UTMB, ces moments-là où tu es dans une course qui finalement, est compliquée à faire, mais c'est quand même hyper sécurisé. Enfin, tu as des ravitaillements partout. En plus, maintenant, au niveau sécurité, ils sont vraiment béton. Ils ont des hélicoptères qui se baladent dans tous les coins. Enfin, et c'est comme le marathon des sables, il y a le suivi GPS, tout ça, c'est des courses qui sont. C'est pas difficile pour ce qu'on croit, en fait. L'UTMB, c'est difficile parce que les températures, enfin, on peut vraiment avoir un climat de merde, vraiment. Moi, j'ai eu de la grêle et tout ça, hein, sur l'UTMB, même presque de la neige. Et puis, bon, il y a un dénivelé aussi de ouf, donc ça, c'est ça qui rend l'UTMB difficile. Mais sinon, le tracé, c'est pour un traîneur, un vrai montagnard, c'est un tracé c'est quand même sur des chemins qui sont très praticables. C'est moins velu que, par exemple, tous ces trails des Pyrénées, par exemple, où c'est très rocailleux souvent, où je parle même pas de la Corse, ou des balcons d'Azur, ou des courses comme ça, que t'as l'impression qu'il y a que du caillou partout, quoi. Je parlais de mon bitume, alors là, c'est la hantise suprême. Mais ouais, c'est toutes ces courses-là, c'est pas une fin en soi, quoi, je pense. Et ça doit préparer aussi, ouais, lâchez-vous, essayez de faire des trucs un petit peu, même en famille, il y a plein de trucs à faire. Il y a en famille, entre potes, etc. Il y a vraiment des expériences à vivre. Mais après, c'est vrai que les courses, c'est souvent le moyen de de voir des gens qu'on n'a pas l'occasion de voir, de partager aussi des moments. Et ça, c'est super. Mais bon, ouais, moi, j'ai toujours eu un petit problème avec la compétition, avec l'idée de compétition. C'est pas trop, trop mon kiff. Mais voilà. Mais puis surtout l'idée qu'on m'impose une ligne d'arrivée, j'aime pas trop.
Alors, il y a un truc d'ailleurs en parlant de ligne d'arrivée, parce que je vois là dans ton défi, quand tu avais annoncé ton défi, Hercule, alors attends, c'est le 10, le Big Dogs Backyard Ultra en solo pendant un maximum d'heures. C'est quoi ce truc?
Ah, c'est quoi ce truc? Alors ça, c'est un truc. Alors à l'origine, non, je vais pas remonter l'origine. Bon, à l'origine, il y a la Barclay. Allez vous renseigner sur la Barclay, qui est, je pense, pour tous les coureurs d'ultra, la course la plus dure du monde. C'est-à-dire un dénivelé de fou et tu cours dans les ronces, en gros, quoi. Puis en plus, c'est un 100 miles, donc 160 km, et c'est vraiment. Je crois qu'en 25 ans, il y a peut-être 10 coureurs qui ont terminé la
Ouais,
Barclay, quoi.
elle était conçue pour pas être finie en fait à l'origine, donc.
Exactement, donc très très compliqué. Et en fait, je crois que c'est les créateurs de la Barclay. Alors, je t'avoue que j'ai pas trop regardé l'historique, moi c'est juste le principe qui m'a intéressé. Alors l'idée c'est de faire 6, alors c'est très précis, 6,73 km, je
Ouais,
crois.
tu marques 6,703 km par heure.
703, exactement. Donc 6,703 km par heure, et de faire ça toutes les heures, un maximum d'heures. Et donc ils ont même moi je suis tombé dessus parce que j'ai des contacts coureurs d'ultra qui faisaient ça l'année dernière. Et donc il y avait les championnats du monde de Big Dogs Backyard Ultra. Et donc en fait dans plein de pays simultanément, il y avait des équipes qui, enfin, donc les Français, les Anglais, les Américains, etc. qui faisaient ça. Et l'idée c'est que on fait ça le plus longtemps possible. Et jusqu'à ce qu'il en reste plus que deux, donc c'est un petit peu marche ou crève pour ceux qui ont lu le roman de Stephen King, et on fait ça le plus longtemps possible, et dès que l'avant-dernier s'arrête, en fait, tout s'arrête. Et donc voilà, donc en fait, pour battre un record absolu, il faut qu'il y en ait deux qui soient en capacité de battre le record. Donc c'est un petit peu ça le concept de la course. Et ça, c'est vraiment dans l'esprit Barclay. C'est-à-dire que l'esprit Barclay, en fait, si un jour tu tombes sur la charte un petit peu de la Barclay, tu vas avoir. D'ailleurs, on avait fait un gros article là-dessus dans Feu Ultra Fondu, où en gros, il dit, ben voilà, t'es une femmelette si t'es pas capable de courir, parce que les temps limites, les barrières sont super larges. Si t'es pas capable de courir à 2,3 km/h de moyenne, quoi, tu vois. Mais oui, mais le monsieur, il y a beaucoup de ronces quand même, et puis c'est long. Et c'est un petit peu ce qu'on se dit sur les 6,703. On se dit, mais oui, tout le monde est capable de courir à 7-8 km/h. Oui, mais quand tu arrives à 20, 30, 40 heures, je sais plus ce que c'est le record, mais c'est un peu au-delà de 40 heures, je crois.
75 heures.
75 heures, oui, il a été battu il n'y a pas longtemps, je
Ouais,
crois.
le Belge, un Belge qui a, ça fait
Ouais.
75 heures.
Donc tu vois, là, c'est 72 heures, c'est 3 jours, donc plus de 3 jours. Là, tu as beau maîtriser le sommeil polyphasique et tout ça, il y a un moment où aller à 6 km/h, c'est très très difficile. Et voilà, donc oui, donc ça, c'est. Je pense que je vais aller nettement en deçà de ce que font ces coureurs-là. Déjà, si je fais 20-24 heures, je serais content. Après, avec tout ce que j'ai fait avant, on n'est jamais l'abri d'un coup de bol, hein, comme j'ai dit une ou deux fois. Mais voilà, il peut se passer quelque chose. Et bon, peu importe la distance, en fait. L'idée, c'est de voir sur des expériences comme ça un petit peu jusqu'où tu peux aller. Et puis. Voilà, donc ça peut être 10 heures, ça peut être 20 heures, ça peut être peu importe en fait, hein, ça peut être même beaucoup plus, mais ouais, c'est un format qui est intéressant, je trouve.
Ouais.
Et
Mais je
c'est
sais
ça
que
qui est
j'ai
bien
des
dans
auditeurs qui
l'ultra.
veulent le faire, en fait, parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps dans la communauté. Alors, peut-être pas sur ce dernier format, sur ce format-là spécifique, mais tu sais, sur vraiment ce format de course où bah, tu dois faire une boucle dans un temps donné, puis bah, si tu la fais plus vite, tu as du temps de repos, et puis ça repart et c'est
Oui.
systématiquement, etc. Je suis des Américains sur Internet, il y en a un dont j'ai perdu le nom, mais qui montre la ligne d'arrivée, alors je ne sais pas combien de temps il a tourné, et il montrait le vainqueur d'une de ses courses qui court dans un... tout déformé par la course, etc. Et puis, ils se regardent, ils sont deux encore arrivés, hop, ils se remettent un petit coup, ils partent et tout. Et on se dit, mais comment il fait pour arriver à courir autant? Et il y avait une caractéristique d'ailleurs qui est intéressante, c'est que les femmes ont l'air plus fortes que les hommes sur ce genre de course. Je ne sais pas pour quelle raison, mais j'avais lu un article dans un magazine qui disait que les femmes étaient, et je crois que c'est dans Zatopect hein, qui le disait, je retrouverai, je mettrai le lien, justement que les femmes étaient redoutables à cet exercice-là, et on ne sait pas trop pourquoi, mais qu'en fait, elles ont une capacité à tenir ce genre d'effort qui est vraiment assez incroyable.
Ouais, effectivement, nous aussi, on avait fait un article là-dessus, Zatopek aussi, et en fait, la source est toujours la même, c'est Guillaume Millet, que tu connais peut-être, qui est, alors si tu l'as pas interviewé, tu peux y aller, qui a fait des conférences sur les limites du corps humain, c'est un chercheur, et c'est aussi un excellent coureur d'ultra, donc il a fait deux ou trois fois un top 5 à l'UTMB, et donc il s'est beaucoup, beaucoup intéressé justement aux limites du corps humain. Il a beaucoup travaillé sur la fatigue aussi, les différents niveaux de fatigue, c'est passionnant ce qu'il fait. Et là, justement, alors lui, il a émis des hypothèses là-dessus, sur le fait que peut-être les hommes mobiliseraient plus facilement, les femmes, pardon, mobiliseraient plus facilement les réserves de graisse, des choses comme ça. Et puis après, il y a aussi, les femmes n'ont pas la même perception de la douleur que les hommes aussi. Alors après, ça peut être l'accouchement, et puis. Puis après, il y a le cerveau reptilien aussi, hein, qui fait beaucoup de choses. Elle gère aussi beaucoup mieux ce genre de course. Moi, à un moment, j'avais trouvé la meilleure technique de course à conseiller pour un homme, c'est suivre une femme sur un ultra. Alors après, c'est vrai que ça peut faire un petit peu, ça peut faire un petit peu malsain, hein, mais c'est vraiment. Moi, j'avais tendance à partir trop vite. Et le premier UTMB que j'ai réussi, c'est au départ, je me suis dit là, pendant les 10 premières heures. Tu continues pas tant que t'as pas une femme qui t'a dépassé et que sur laquelle tu peux caler ton rythme. Et oui, effectivement, elles sont très fortes. On a même des femmes qui gagnent des ultras. Il y a Pam Reed qui avait gagné deux fois la Badwater, qui est une course dans la vallée de la mort de 217 km, une des courses les plus dures au monde. D'ailleurs, les hommes à l'époque n'avaient pas trop apprécié aussi. Il y en avait un qui s'était un petit peu énervé, qui avait essayé un petit peu qui avait plus ou moins mis l'hypothèse que c'était pas une performance fair play, etc. Enfin bon, bref. Après, on arrive dans des trucs, c'est juste que t'as perdu, quoi. Et contre une femme, effectivement. Alors après, il y a des. Ce que dit Guillaume aussi, c'est qu'il y a des réalités aussi physiques des hommes versus les femmes, hein, qui font qu'on est aussi, nous, très adaptés à ce genre d'effort, mais. Voilà, enfin, nous dans Ultra Fondue, on avait pas mal justement essayé de regarder comment tirer le meilleur parti en fait de tout ce qu'on a en tant qu'homme, femme, petit, gros, moyen, jeune, vieux, etc. Et en fait, on a toujours une capacité qui quand on va chercher un petit peu dans notre reptilien, nous permet de rentrer en mode survie de manière hyper efficace. Mais c'est pas les mêmes. Et quand on, bon, il y a pas longtemps, j'écoutais un témoignage de Simone Veil qui racontait les déplacements entre les camps de concentration et notamment quand les soviétiques ont libéré les camps de concentration. Donc les Allemands fuyaient au fur et à mesure que les soviétiques avançaient, ils fuyaient les camps avec les prisonniers. Et donc, elle raconte à un moment qu'elle a fait une marche par moins 25 degrés avec leur petit pyjama, là, en état de dénutrition avancée, pendant 24 heures. Et là, tu te dis, tu parles pas de tendinite, là, tu vois. C'est juste que si tu peux plus avancer, t'es mort. Et c'est quand même des vieillards, des enfants, tu vois. On est dans le luxe le plus total, en fait. Et ce qu'on essaie de réactiver, nous, c'est ça, c'est on essaie de réactiver dans le luxe cet instinct de survie un petit peu, sachant qu'on a... Enfin, moi j'ai des aïeux un petit peu qui ont vécu ces moments-là, et ce que j'ai toujours apprécié chez eux, c'est qu'ils avaient vécu des trucs comme ça, que ce soit l'exode ou des choses comme ça, et en fait, jamais personne dans ma famille m'a dit « Oui, mais ce que tu fais, c'est... » C'est de la gnognotte, en fait. Et ce que j'ai toujours apprécié, c'est qu'ils avaient énormément de respect pour ça, sans se dire, sans comparer à ce qu'ils avaient fait, mais quand même à se dire, En fait, ils avaient la conscience que j'allais chercher ça de mon propre chef et ils comprenaient vraiment bien ce que j'allais faire. C'est-à-dire que j'allais rechercher un petit peu. Et je ne vais pas dire que c'est un hommage un petit peu à tout ça, mais c'est aussi se dire ce qu'ils voyaient, c'est que ben, voilà, le petit jeune, il va, enfin, un petit jeune à l'époque, mais il va chercher un petit peu. Ouais, il va sortir de sa zone de confort. Tu vois, il ne se contente pas un petit peu de, justement de regarder la télé ou de jouer aux jeux vidéo ou autre. Et je joue aussi aux jeux vidéo. Mais ouais, tu sors un petit peu, tu vas chercher d'autres choses, quoi. Et c'est vrai que ça m'a souvent servi, ça. C'est pas tellement l'image de la souffrance, mais ouais, on peut aller loin, en fait. On peut aller vraiment loin.
Eh bien, écoute, c'est une magnifique conclusion, je trouve, parce que ça fait un petit moment qu'on papote. Tu vois, moi, bon, ce que je dis, enfin, en général, c'est que je fais des épisodes sorties longues, tu vois. Mais, enfin, sorties longues pour toi, pas vraiment, mais sorties longues pour les auditeurs, pour un bon paquet d'auditeurs, oui. Ouais. En tout cas, c'est tellement intéressant. Et puis, c'est vrai que puis tu m'avais prévenu qu'on pouvait parler des heures sur ces sujets-là, parce que on se rend compte, en fait, que la course à pied nous amène à penser à tellement de choses différentes, etc. Et le prochain épisode, je peux l'annoncer, ça, on parlera de stoïcisme. Et justement, j'ai réinvité Lilian. Parce que Lilian, il écrit sur le stoïcisme, la course et la rame, parce qu'il a traversé, lui, il a traversé l'Atlantique à la rame. Tu vois, il part de petites aventures et il finit à traverser l'Atlantique à la rame. Mais il a fait le Tour de France en vélo, enfin, tout un tas de trucs comme ça. Et l'autre jour, il fait un truc sur le stoïcisme. Et ça fait tellement longtemps, tu sais, que cette approche philosophique du sport aussi m'intéresse. J'ai dit, tiens, et on peut aborder tellement de sujets par le biais du sport, de la course à pied, mais tu as parlé aussi de vélo, tu as parlé de natation. Comprends que tu as une vie sportive longue, hein, mais qui est vraiment tellement riche. Et c'était vraiment tellement intéressant. Je me demande quand même, quel est ton prochain défi? Enfin, où tu en es un petit peu dans les défis? Est-ce que tu as un truc quand même que tu n'as pas encore annoncé? Parce que tu annonces plein de trucs, tu te challenges un peu, tu nous demandes aussi de dire, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Mais tu as un truc qui te tourne dans la tête un peu là, mis à part ces histoires de courir 6 jours sur un tapis?
Moi, souvent, je suis très décevant quand on attend quelque chose de moi. Je vais complètement à l'inverse de ce qu'on attend. En fait, moi, ce que je veux, c'est être un vieillard galopant. C'est ça le gros défi, en fait, qui les supplante tous. Peu importe que ce soit traverser la France, traverser le monde. J'ai vu à un moment qu'on pouvait traverser à pied le monde du nord au sud. Il y a une super route comme ça, sans prendre le bateau. Pourquoi pas faire des 6 jours tapis, oui, évidemment, et tout ça. Mais moi, ce que je veux, c'est je sais pas à quel âge j'arriverai, mais 90, 95, 100 ans, peut-être 70, j'en sais rien, mais pouvoir courir, courir, marcher, etc. Et si c'est pas ça, et peut-être que ça peut faire une conclusion aussi assez intéressante, parce que tout le monde doit se dire, oui, mais le jour où il n'arrive plus à courir, parce que, qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé le biopic sur Stephen Hawking, et on peut faire des tonnes de trucs juste en bougeant les yeux. Alors en bougeant le corps, on n'imagine même pas.
Eh ben écoute, c'est vrai, t'as raison, c'est une magnifique conclusion. On va rester sur ces belles paroles. En tout cas, merci beaucoup. Alors, on va juste rappeler où te suivre, où suivre tes aventures.
Alors c'est Phil UFO, enfin Phil tiré du bas UFO, donc sur Instagram essentiellement. Alors UFO, c'était, je suis passé par quelques pseudos, puis UFO c'était ultra fondu, voilà, c'était un truc qui me suit depuis longtemps.
Donc moi, je crois que c'était extraterrestre, mais.
En fait c'était un petit peu parce que ultra fondu, ultra fond, voilà, il y a UFO dedans, et puis c'était effectivement un petit jeu de mots comme ça qui est pff, un petit peu, voilà, c'est pas le jeu de mots du siècle, hein, mais disons que c'est un petit peu c'est tout ça, c'est un petit peu une façon de dire bon, tout le monde peut l'être et tout le monde peut le faire, et nous ne nous prenons pas trop au sérieux non plus, mais un petit peu quand même. Comme les enfants. Il y a une citation de Jean-Louis Aubert qui est jouer avec le sérieux d'un enfant. Et c'est voilà, c'est, donc ça fait plein de citations, plein de conclusions en fait à ton podcast. Hein, je suis désolé, mais mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Et en tout cas, moi, je te remercie vraiment de m'avoir accordé ce temps de parole. C'était super sympa. Et voilà, je recommanderais ton podcast à pas mal de gens, et je vais aller rattraper aussi un petit peu de retard parce que je sens que j'en ai, et tu m'as léché sur pas mal de sujets là déjà. Bien joué. Et merci encore Bertrand.
Et ben merci beaucoup à toi. Comme je disais, la semaine prochaine, là c'est pas une surprise, le prochain invité sera Lilian, on parlera stoïcisme. Lilian, ça, vraiment, tu vois, je peux te le recommander à l'avance parce que je sais déjà, j'avais eu dans Sport Nutrition, quand il raconte ses aventures, c'est vraiment extra. Et puis lui, il y a une manière de décomposer aussi comment il va dans l'effort. Tu sais, c'est un ingénieur dans la tête un petit peu. Hein. Il se fixe un défi, puis il se demande comment il va y arriver. C'est vraiment extrêmement intéressant. En tout cas, merci beaucoup Philippe pour ce temps passé avec toi. Je me suis vraiment régalé. Et je pense que les auditeurs se sont régalés. On va tous suivre tes aventures. Moi, je t'avoue, je me dis, hein, vraiment, tu vois, des fois, je me sentais pas très motivé sur certains trucs, etc. Et quand je regarde un peu ce que je suivais, je dis, là, il a raison d'aller rajouter un peu de fun, etc. Tu vois, tu peux rajouter un petit peu d'amusement et tout. Et je pense, c'est vraiment, vraiment, moi, ce que je retiens beaucoup de ton compte, parce que ça, tu me fais rire avec les trucs et tout. Je te jure, ce matin, quand je regardais ce défi de courir à l'envers et tout, je me disais, putain, c'est quand même une bonne idée. Je dis, mais ça peut t'amener loin quand même, hein, ce piège. Hein, mais bon, t'as l'air prêt à relever les trucs. Donc, allez-y. Et moi, j'ai envie de dire, allez-y, la prochaine fois que tu mets un truc, allez-y, mettez-lui le challenge. En tout cas, merci beaucoup. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous le dis donc avec Lilian, hein, puisque c'est déjà annoncé. Et en tout cas, merci beaucoup pour le temps passé avec nous, Philippe. Et moi, je vais mettre tous les liens pour qu'on suive et qu'on aille t'encourager.
Merci Bertrand, et bonne course longue à tous, ou bonne récupération.
Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous le voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.